Je pense que t'as vraiment, honnêtement, plus de chances d'être blacklistée en sûr. Étant enceinte qu'en étant un agresseur, quoi. Donc c'est quand même...
C'est ouf.
Hein. Enfin, c'est absurde.
Mourque le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue. Ça va, Daz ?
Ouais, ça va très bien. C'était une interrogation, tu vois.
Oui.
Comment va-t-il faire son intro punchy s'il peut plus dire dans le tempo ?
Eh ben, je dis mourque le son.
Mourque le son, ouais.
Mais j'invite les gens à monter le son, d'ailleurs,
ouais,
pour nous écouter nos belles voix. Et écouter surtout les belles voix de nos invités.
Ah, mais qui sont-elles aujourd'hui ?
Eh bien, oui, c'est vrai que nous recevons Mithy, Domithy. Ça va ?
Ça va.
Et nous sommes aussi avec Morgane Giuliani. Je vais vous présenter rapidement et ensuite on présentera un peu le concept de cet épisode.
103
aujourd'hui, 103 absolument.
103.
Oui, Domithy, tu es musicienne, compositrice, tu chantes, tu fais des voix off. Et puis tu as un podcast.
C'est ça.
Et tu as un super podcast donc, qui s'appelle Sisters of Sound et dans lequel, est-ce que ça te va si je dis que tu explores la place des femmes dans l'industrie musicale, tu pars à la rencontre de plein d'artistes et pour retracer aussi leur carrière et les questionnements qu'elles peuvent se heurter, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est une petite enquête en fait.
Ouais.
Ouais.
Et en plus, tu as raison de parler d'enquête, parce que tu sais, en gros, elle fait une voix off, comme ça, on sent qu'elle aime bien faire des voix off. et vraiment, elle nous accompagne, elle nous parle, on entend des extraits, des entretiens, etc. Et tu nous guides, en fait, une narration assez importante pour toi, j'imagine,
ouais,
dans ce podcast.
Ouais, ouais, ouais.
Voix de radio, du coup, tu l'as travaillé un petit peu
Ah, c'est naturel.
C'est naturel. Et puis, on a aussi Morgane Giuliani avec nous. Morgane, t'es journaliste indépendante, t'es autrice, conférencière. Et tu travailles beaucoup sur l'univers de la pop. Par exemple, t'as écrit deux livres assez complets sur Taylor Swift.
Oui.
Est-ce que t'es une Swiftie, on peut le dire ?
Oui, je suis une Swiftie.
Très.
Ça m'empêche pas d'avoir un regard critique, mais ouais, j'aime beaucoup la musique de Taylor Swift.
Très bien. L'épisode précédent, on avait déjà une Swiftie.
Ouais.
C'est la montée en force des Swifties,
yes.
Tu vois, dans le monde.
On arrive,
même
on
un
arrive.
Peu, voilà. ces journalistes qui, du coup, ne sont pas objectifs.
Tout de suite, elle a cassé ton truc en disant, mais je suis quand même objective.
Oui, mais je sais que la communauté, on en a parlé la dernière fois, la communauté des fans de Taylor Swift, les Swifties sont assez intenses. Ouais. Donc ça va, t'as pas eu trop de problèmes avec la commu
Pour l'instant, ça va. C'est plus d'autres critiques avec qui parfois ça frotte un peu.
D'accord.
On va dire, ça se frite un peu plutôt.
Ça se frite même.
Ouais. Ça se frite plutôt que ça se frotte.
Et toi, Morgane, donc, tu t'intéresses à l'univers de la pop et notamment dans la plupart de tes livres ou tes conférences, tu interroges justement la place des femmes dans le monde de la musique, notamment dans le rapport avec le féminisme. À la fois comment les pop stars peuvent parler du féminisme,
ouais.
Et comment les féminismes peuvent avoir des discours sur les pop stars aussi.
Oui,
ouais.
Tout à fait. C'est notamment en fait un sujet, on va dire, de crête un peu que j'explore dans mon premier livre Féminisme et musique qui est sorti chez Le Mot et le Reste.
Nos amis du Mot et le Reste.
Nos amis du Mot et le Reste.
Ils nous envoient de temps en temps des livres.
Ah bah c'est bien.
Ils t'envoient de temps en temps des livres.
On a reçu des gens comme ça.
Et ouais, en fait, ce qui me passionne chez les chanteuses, c'est qu'est-ce qu'elles nous racontent du féminin, de la condition féminine. De notre monde sexiste. Et puis aussi, parfois, est-ce qu'elles mêmes se disent féministes ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles entendent par féminisme ? Et qu'est-ce que les intellectuels féministes ont pu dire ou peuvent dire encore aujourd'hui de ces chanteuses-là ? Par exemple, aux États-Unis, déjà depuis les années 80, les féministes s'intéressent aux pop stars. Et ça a commencé avec Madonna. Donc, nous, en France, on commence un petit peu à rattraper le truc. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est vu déjà depuis 40 ans, ouais, plus de 40 ans, comme un sujet intéressant. Qu'il faut analyser. Ouais.
Effectivement, dans ton bouquin donc Féminisme et musique, qui est intitulé aussi La pop de Madonna à nos jours, tu commences justement avec la figure de Madonna qui incarne quelque chose. Quoi.
Oui, ouais. Tout à fait.
C'est donc avec Domithy dans l'Amberterie, d'ailleurs, j'ai pas dit ton nom, et avec Morgane Giuliani, Daz, on va essayer de discuter justement de cette place des femmes dans le monde de la musique, dans l'industrie musicale. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que dans ton podcast Sisters of Sound, Mithy, tu as une vision hyper transversale du métier, déjà, de manière générale. Aussi, évidemment, de la place que peuvent avoir les femmes. Mais c'est-à-dire que tu vas autant nous parler du rapport au succès, de la motivation, de la créativité, que de sujets peut-être un peu plus spécifiques, type la maternité, effectivement, le fait d'avoir un enfant en tant qu'artiste, et comment on gère ça pour une carrière, etc. Et donc, on va essayer un peu d'avoir un regard sur comment ça se passe, quels éventuels freins, quelles difficultés peuvent aussi...
On a deux, trois en tête, quand même.
Parce que, mine de rien, c'est une industrie parfois difficile pour les femmes. Je pense qu'on va vite s'en rendre compte. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Morgane, toi, tu pourras aussi apporter ton regard sur, à une échelle différente, celle des pop stars, typiquement, comment, en fait, ces questions, on les retrouve aussi comment elles peuvent se poster aussi, comment elles parlent aussi de la société. Voilà. Bon, ça vous va comme, comme
très
programme
bien. Très beau programme. Hein. Bon, vraiment.
Ouais.
Non, je pense que 2 heures, ça va se faire.
Ah oui, ça va se faire là. D'ailleurs, on en a même moins. Il va falloir que. Ouais. On va essayer d'être efficace. Moi, j'ai une première question pour un peu débuter l'émission. Ça peut vous paraître naïf, mais comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même un sujet, entre guillemets, des femmes dans la musique? Est-ce que c'est. Bah, vous êtes des femmes, ça fait longtemps que vous avez conscience que ça peut être compliqué? Ou est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Et surtout, pourquoi professionnellement vous avez voulu vous attaquer à ces sujets, entre guillemets?
Bah moi, quand j'ai commencé à la musique et notamment la composition, je voulais apprendre donc la MAO, musique sur ordinateur, Ableton, etc., etc. Et tout mon apprentissage, c'était toujours des hommes, quoi. À la fois les formateurs ou voilà, et même aussi plutôt, ceux qui apprenaient. Donc je me sentais assez isolée quand même en tant que femme, surtout dans la musique électronique. J'avais pas forcément remarqué. Toutes ces choses-là. Et puis il y a une asso en fait qui s'appelait Louder, donc existe plus, mais qui a organisé des workshops pour des musiciennes. Et en fait, c'est en échangeant avec d'autres musiciennes que là, on se rendait compte que ah ouais, on a un peu les mêmes problématiques. Et en fait, ce que je vis, c'est pas juste moi, ma petite histoire, mon truc. En fait, on traverse quand même les mêmes choses. Et donc, ça faisait l'effet miroir dans nos discussions. Voilà. Et c'est comme ça que là, c'est pour ça que moi, je trouve que la mixité choisie, c'est top, parce que ça permet de se rendre compte.
Qu'est-ce qu'on appelle la mixité choisie?
La mixité choisie, oui, pardon. Ouais. C'est le fait de dire, on va faire un workshop, par exemple, pour les femmes, femmes ou minorités de genre, quoi. Mmh. Et du coup, ça permet de se rendre compte que, ah ouais, on n'a pas exactement la même approche qu'avec les mecs, en fait, clairement. Qui, en plus, culturellement, les mecs, ils sont beaucoup plus geeks. Donc, en fait.
Parce que la MAO, c'est surtout le haut qui est important, c'est ordinateur. Ouais. Et en fait, ton expérience que tu as sur la musique assistée par ordinateur, c'est l'expérience que connaissent les femmes quand elles font de l'informatique juste.
Exactement, ouais. Tout ce qui est technique, même le bricolage, mais voilà. Mmh. Nous, on n'est pas amené à ça, en fait.
On fera vraiment un point spécifique dans l'émission sur la technique, parce que c'est terrible, effectivement. On se rend compte, on sait, par exemple, que les maths, par exemple, malheureusement, les femmes sont très peu représentées, ce genre de choses.
Oh, oui.
Et en fait, dans la musique, dans le rapport aux instruments, au matériel, etc., on retrouve un peu des trucs similaires, quoi.
Ouais. Voilà.
Sauf sur certains instruments.
Ouais.
Qui sont plus pour les femmes, tu vois.
C'est vrai que ça peut être très genré aussi.
Ouais, c'est archi genré. Absolument. En fait. Le violon, je pense au violon, je pense à la harpe.
Ouais. Mm-hmm.
J'ai rarement vu des harpistes hommes, tu vois.
Mm-hmm.
Donc il y a des trucs comme ça où t'as vraiment des instruments, ça c'est pour les femmes, tu vois. Mm-hmm. Tout le reste, c'est pour les hommes, tu vois, classique shit, mais.
Et Domiti, tu nous diras comment après t'as voulu lancer ce podcast, pourquoi. Mais Morgane, toi justement, cette espèce de prise de conscience, si je puis dire, je sais pas si ça a été aussi soudain que ça, mais.
Ouais, elle est arrivée au début de ma vingtaine, quand j'ai voulu commencer à écrire sur la musique en dehors de mes Skyblogs, parce que moi j'ai commencé à écrire sur la musique sur Skyblog. J'avais des Skyblogs.
Est-ce que c'est encore en ligne?
Non.
Tu les as sauvegardés quand même? Ils ont pas sauvegardé.
Écoute. Mais j'ai pas des captures d'écran par-ci par-là, mais ils sont dans mon cœur à tout jamais. Et quand j'ai voulu commencer à écrire, tu vois, par exemple pour des blogs participatifs, il y en avait un notamment où c'était dit avec une bonne intention, mais le rédacteur en chef m'avait dit c'est marrant, t'écris pas comme une fille. Donc très vite, on a commencé à me ramener à mon genre, et moi, et vraiment sur le moment, j'ai pas compris ce qu'il me disait, parce que moi j'écrivais comme j'avais envie d'écrire, en fait. Il me disait oui. D'ailleurs, à la fois il m'a dit que c'était bien, et en même temps il m'a demandé de féminiser mon écriture.
Sérieux?
Donc oui. Donc du coup, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire non plus. Donc je commençais un petit peu à faire des remarques genre sur le physique des chanteurs dans mes papiers, parce que je me disais c'est peut-être ça qu'il attendait, je sais pas. Et puis il m'avait dit voilà, ça sent que toi t'es pas une groupie, que tu t'intéresses réellement à la musique, et ça fait plaisir. Et en fait, sur le moment, j'étais encore un peu jeune pour me rendre compte que c'était juste du sexisme, en fait, tout simplement, mais ça m'avait quand même fait tiquer, mais sincèrement, je ne comprenais pas. Et en fait, ce fait d'être ramenée à mon genre en tant que journaliste musique, c'est arrivé plein de fois encore depuis. J'ai eu un chef dans une grande rédaction qui m'avait dit « Oh, les labels, ils aiment bien quand on leur envoie des jolies filles pour interviewer leurs artistes. » Donc, Du coup, moi, j'étais stagiaire à ce moment-là, donc tu dis un peu, ah, d'accord, bon, ok, ben, super, ok. Enfin, voilà, des choses comme ça, pas très sympas, ou des artistes qui vont pas être très galants, on va dire, tu vois, en interview, des choses comme ça. Donc oui, moi, je me suis retrouvée à mon niveau de journaliste musique aussi à percevoir ça. Déjà, j'avais remarqué qu'il y avait pas énormément de journalistes meufs musique au-delà d'un certain âge. Donc, je m'étais assez vite demandé, mais est-ce que c'est possible de tenir, en fait, dans ce métier? Sachant que j'ai pas fait que ça, d'ailleurs, hein, j'ai aussi été journaliste société, culture de manière plus large, j'ai pas écrit que sur la musique. Et j'en avais parlé notamment à une amie mentor qui, elle, est journaliste foot, Marine Marc, qui bosse à Téléfoot sur TF1. On a fait la même école et à l'époque, elle m'avait encouragée en me disant, écoute, te pose pas trop cette question-là de si c'est possible de tenir sur le long terme ou pas, juste vas-y, fais ce qui te plaît, quoi. Fais-toi plaisir, c'est un métier où on doit aller vers les sujets qui nous font plaisir, donc vas-y. Mais ça n'a pas toujours été évident, ouais, d'être pris au sérieux en tant que meuf quand tu veux écrire sur la musique. Ouais.
C'est marrant parce que toutes les deux, il y a un truc commun, c'est dans une certaine forme de professionnalisation, en tout cas une envie de maîtriser un domaine, que vous êtes vraiment confrontée à ce sexisme, etc. Mmh. Et par exemple, en tant qu'auditrice initialement de musique, parce que j'imagine que vous écoutez de la musique depuis longtemps, vous êtes passionnée de musique toutes les deux, vous aviez moins conscience de la fracture qui peut exister entre hommes et femmes et des difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans l'industrie musicale?
Oui, bah tu vois, moi quand j'étais ado, je me posais pas ces questions-là, juste je kiffais dans mon coin, ou avec mes copains, ou à l'époque j'écoutais Linkin Park, My Chemical Romance, Placebo, enfin des choses comme ça, Muse et tout. Et donc ça va, j'étais pas trop confrontée à ça. C'est plus aussi par la suite où je me suis rendu compte, ah bah tiens, Rock Mag que je lisais très religieusement quand j'étais ado, bah oui, en fait, à part Jennifer Hayash de Superbus, c'était quand même très rare, ou Emily de Evanescence, c'était très rare de voir des figures féminines. Et je me suis rendu compte, en fait, a posteriori, que j'écoutais quasiment que des mecs, quoi. Et ça m'est venu dans ma vingtaine d'avoir un peu plus le réflexe, moi, d'aller chercher des artistes féminines. Et je pense que j'avais aussi une part de sexisme intégré, bah non, ça va être moins intéressant. Et aussi envers la pop, tu vois, de manière générale. Parce qu'à la base, moi, je viens vraiment du rock, que j'écoute toujours beaucoup. Mais pendant longtemps, j'étais un peu réfractaire, quoi. On va dire, j'écoutais pas trop de pop, parce que je me disais... bon non, ça va pas être intéressant.
C'est de la soupe.
Ouais, voilà, c'est de la soupe. Et en fait, j'ai déconstruit petit à petit ces a priori là. Mais par la suite, voilà, aussi quand je me suis, bah, à la fois quand j'étais dans les scènes rock, bah du coup, tu sens aussi quand même une forme de sexisme qui est quand même très latent. Et quand j'ai commencé à écrire sur la pop, difficile de réussir à être pris au sérieux sur ces sujets-là qu'on pense, notamment en France, très frivole. Alors que moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est ce que, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que ces artistes nous racontent des femmes et pourquoi est-ce qu'elles parlent à autant de femmes à travers le monde? C'est bien qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe, il y a une sorte de représentation au moins qui se fait dans une certaine mesure.
Une question, c'est quand on parle de pop aujourd'hui, peut-être que c'est une perception que moi j'ai, mais j'ai quand même l'impression que quand on parle de méga stars de la pop, c'est souvent des femmes, en fait.
Oui.
J'ai pas trop de pop star hommes actuels.
Ouais.
Tu vois, contrairement aux années 90 où on pouvait avoir un Michael Jackson ou des choses comme ça. Mmh. Ouais. Là, tu me parles de pop star. Instantanément, tu penses à Taylor Swift, tu penses à Billie Eilish, tu penses à ces artistes-là et moins à des hommes.
Oui.
Et malgré ça, c'est quand même des hommes qui chroniquent ce milieu-là, en fait.
Oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque.
Je suis journaliste.
Non, mais c'est vrai. Bah, par exemple, Taylor Swift, elle a sorti un nouvel album, là, il y a un mois, qui s'est fait démonter par une partie de la critique. Bon, ça, ok. Tant qu'il y a des arguments derrière, pas de souci. Mais par exemple, Télérama, je n'ai rien contre Télérama, je l'ai dit tout de suite. Télérama a désingué l'album. Un journaliste homme de Télérama a désingué l'album en disant qu'il était aussi creux que les précédents. Donc là, il a vraiment fait une offre de groupe.
Allez.
Hop, on peut, c'est plié, c'est bon. Et en fait, là, au bout d'un moment, tu vois qu'il, je trouve, il y a une inadéquation entre qui parle et qui parle de quoi. Et là, pour moi, il y a une forme de frustration aussi, d'ailleurs, parfois, de, mais en fait, vous en parlez mal. Cette musique-là s'adresse pas forcément à vous, mais du coup, faites l'effort d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Mais ça vaut aussi pour des artistes noirs comme Aya Nakamura qui se font démonter parce qu'on supporte pas de voir une femme noire prendre beaucoup de place et en plus avoir, enfin, ne pas se laisser faire comme c'est son cas. Dans ce cas, faut faire aussi attention, je trouve, tu vois, dans ces cas-là, en tant que journaliste blanc, à comment est-ce que je vais décrypter ce truc-là? Est-ce que je vais pas avoir des biais racistes qui vont remonter?
J'ai même envie de dire, pardon pour préciser, parce que, enfin, par rapport à nos auditeurs et tout, je pense que tu reproches pas au fait qu'un homme puisse émettre une critique sur l'album de Taylor Swift. Le problème, c'est qu'il y a que des hommes.
Oui,
c'est qu'il y a que des hommes dans ces métiers souvent, quoi.
Oui, très souvent. Très, très souvent. Bah, notamment en France, en fait.
Ouais. Domiti, tu nous as pas dit, toi, sur, en tant qu'auditrice, tu sais, avant vraiment de vouloir te mettre à la MAO et te rendre compte qu'il y avait vraiment un truc, là, effectivement, en tant que femme, un rapport à la technique, notamment, et tout, qui était différent. En tant qu'auditrice de musique, à la base, t'avais aussi cette idée que c'était quand même un milieu un peu genré,
Non, moi pas du tout, parce qu'en fait, moi j'adorais Björk, par exemple. J'avais des références assez féminines, en fait. Okay. Il y avait Björk, il y avait Laurie Anderson, Patti Smith, enfin des figures comme ça qui je trouvais hyper inspirantes, hyper fortes. Donc du coup, non, je m'en rendais pas trop compte. Et d'ailleurs, ce que tu disais, c'est que moi, c'est ce qu'on m'a dit aussi. On me disait, mais tu dis qu'il y a pas beaucoup de femmes en musique, mais c'est pas vrai. Regarde, les pop stars, c'est que des nanas. Donc en fait, on s'en rend pas forcément compte si on creuse.
Pas dit comme ça. Hein.
Non, mais je veux dire, c'est
vrai que on peut ne pas s'en rendre compte, en fait, parce que médiatiquement, on va Zao de Sagazan. Enfin voilà, il y a plein de femmes comme ça qui sont mises en lumière. Donc du coup, si on creuse pas un peu, on va pas forcément le voir, mais en fait, c'est 14% en moyenne. Enfin, ça c'est le CNM.
Sur les sorties, tu veux dire?
Sur par exemple les, je crois que c'est le. Il me semble que c'est en live ça. Donc sur okay. Les festivals, etc. 14% de femmes dans les musiciens, musiciennes. Et si tu vas dans le métal, dans le jazz,
oui, bon, alors là
ça peut aller jusqu'à des 97%, quoi. Enfin, des chiffres de fou, quoi.
J'ai des exemples là-dessus. Après, je te laisserai continuer parce que dans ton bouquin, Morgan, tu cites quelques chiffres que j'ai mis de côté. Je cite directement le livre, hein. Le manque de parité est un autre problème de taille. Les femmes ne représentent que 17% des artistes programmés sur scène en France, dévoile le Centre National de la Musique. C'était en 2023, donc peut-être que ton chiffre était sur une autre
année. Ah oui, c'était peut-être avant.
On a gagné 3% quand même.
Ouais. Non, mais globalement, on est dans le même ordre d'idée, quoi, effectivement.
Ouais, c'est pas encore.
Donc sur les programmations vraiment sur scène, les femmes sont très peu représentées. Elles ne représentent que 29% des 1000 titres les plus diffusés en radio. En 2021. Alors ça peut évoluer en quelques années, mais on part de 29%, ce qui est quand même faible.
Très très bien.
La seule catégorie non genrée des victoires de la musique, l'album de l'année, n'a été attribuée que 4 fois à une femme entre 2000 et 2021. Donc en 21 ans, 4 fois une femme.
En et album de l'année.
Oui, pour l'album de l'année.
Ouais, quand même, ouais.
Alors je suis sûr qu'il y a eu des artistes femmes qui ont sorti des albums
oui,
qui tuent en 21 ans.
Quand même, et à l'inverse, je pense qu'il y a des hommes qui ont sorti des albums de merde aussi.
Probablement. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas gagné quand même sur les 21 ans.
Oh il y a des précédents sur l'histoire de la musique. Je citerai pas de nom pour pas froisser des égos, mais bon. Voilà.
Et je termine où tu dis donc dans ton livre, en coulisses ce n'est pas mieux. Depuis 15 ans, les femmes ne représentent que 36% des actifs dans le monde de la musique et du spectacle.
Ouais.
Et parmi les techniciens, seuls 27% sont des femmes.
Oui.
Ce que j'allais dire, ouais, c'est que quand bien même on aurait sur le devant de la scène plus d'artistes femmes, en fait, au niveau de l'encadrement des structures de l'industrie, ça reste complètement masculin comme.
Ça reste très très masculin. En fait, tu le vois que ce soit au niveau des artistes, mais aussi dans les métiers vraiment de coulisses, mais aussi à des postes décisionnaires où, je crois que c'est en 2021 que Sony a été le premier gros label en France à nommer une femme à sa tête, quoi, présidente. C'était la première fois qu'une femme se retrouvait à la tête d'un des plus gros labels, enfin, une des trois majors, quoi, en France en tout cas. Moi, un chiffre qui m'a, enfin, une stat que j'avais découverte en écrivant mon livre, qui m'avait vraiment fait un gros électrochoc, c'est le fait qu'à partir de 30 ans, les femmes commencent à disparaître de l'industrie de la musique. Et ça m'a vraiment... Oh, ça m'a fait un truc de... parce qu'elles deviennent mamans à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important de parler aussi de sujets de maternité par rapport aux femmes. Pas pour dire pour les assigner, mais parce qu'elles évoluent dans une société qui reste encore très sexiste et très inégalitaire, où c'est plus difficile de continuer à travailler dans un milieu qui demande de voyager, de travailler le soir, de travailler la nuit, si on a des enfants, parce que encore énormément, la charge des enfants revient surtout aux femmes, même quand elles sont en couple, quoi. Donc moi, ce chiffre-là, ça a été une grosse baffe de le découvrir, cette statistique-là, parce que je trouvais que c'était très parlant. Parce que oui, effectivement, on peut voir plein de jeunes filles, tu vois, qui commencent pleines d'enthousiasme, qui arrivent dans les labels, par exemple en com ou marketing et tout, et puis au bout d'un moment, elles arrêtent et elles font autre chose. Parce que c'est compliqué de lier, je pense, cette vie professionnelle-là, qui est une vie professionnelle quand même très spéciale, avec une vie privée,
Et d'ailleurs, tu l'as dit toi-même, c'est les profils, c'est plutôt en com et en marketing quand elle rentre dans
souvent,
l'industrie
Souvent, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus souvent le cas.
Ce qui est intéressant, c'est que donc elles disparaissent des radars à partir de 30 ans.
Ouais.
Alors que tous les postes de décisionnaires des maisons de disques, c'est plus souvent des quinquagénaires.
Oui.
Donc théoriquement, il y a de la place pour des seniors. Donc c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de genre. Tu vois.
Oui, c'est vraiment une question de genre pour le coup. Ouais.
Tu disais, Domiti, que en tant qu'auditrice, toi, t'avais vraiment des figures féminines qui pouvaient t'inspirer, etc. Puis il y a eu ensuite cette forme de prise de conscience en te mettant vraiment toi-même à la musique. J'imagine dans un élan aussi peut-être de professionnalisation, en tout cas petit à petit de vouloir en faire ton métier d'artiste. Ce qui est intéressant, c'est que quand t'as fait ensuite ton podcast et que tu t'es intéressé à ces questions, t'as vraiment eu une approche, comme je le disais en introduction, transversale, c'est-à-dire de dire « Ok, la place des femmes dans la musique, on va pas seulement, c'est pas uniquement par exemple des questions de VSS, de violence sexuelle et sexiste, c'est pas que ça. En fait, c'est tout un ensemble de vécus et qui peuvent être très variés en réalité. Comment t'es venu justement cette idée de se dire, bah attends, en fait, parler du succès, mais aussi avec mon regard peut-être de femme, en donnant la parole en tout cas à des femmes, ça a du sens. Et, comment tu vois, voilà, vraiment, est-ce que c'est un tout vraiment en tant que femme, le vécu dans la musique de manière générale est différent?
Alors, normalement, en fait, les deux premières, j'ai fait trois saisons. Donc, la première saison, c'est vraiment sur le fait d'être une femme dans la musique, et donc le sexisme. La deuxième saison, elle est un peu plus spécifique sur les questions de l'âge, de la maternité, des violences sexistes et sexuelles. Et la troisième saison, je me suis dit, bah là, je vais ouvrir, et donc je vais parler aussi des mecs, parce que je pense que là, pour le coup, il y a aussi des choses qu'on partage, en fait. Donc la troisième saison, je pense qu'elle est un peu plus large, et d'ailleurs il y a quelques mecs dedans que j'ai interviewés, parce que là je trouve que ces sujets là ils nous parlent à tous, c'est-à-dire la santé mentale, le succès, comment garder la flamme dans la durée. Après, c'est sûr que quand c'est une meuf, c'est juste un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a tous les trucs que j'avais dit avant qui se rajoutent. Voilà, c'est ça la différence.
Ouais. Donc oui, il y a quand même des sujets universels.
Carrément, la santé mentale, c'est un vrai sujet qui touche aussi beaucoup, beaucoup les musiciens, ça c'est sûr.
C'est marrant parce que ce côté, alors ça s'exprime de manière différente dans le travail de Morgane, mais le fait qu'il puisse y avoir plusieurs approches... ou en tout cas, j'ai envie de dire presque plusieurs étapes, parce que c'est un truc qui ressort dans ce livre, encore une fois, c'est qu'en fonction des périodes, il y a eu des discours, des prises de conscience, etc., d'ordre extrêmement varié, avec presque une espèce d'évolution chronologique. On voit vraiment, il y a de grandes étapes, tu vois. Tu peux d'ailleurs nous dire rapidement que, tu vois, sans trop en dire sur le livre, là, on invite les gens à aller le lire, mais vraiment qu'il y a eu... quelques milestones, tu vois, des grandes étapes qui ont marqué quelque chose dans la représentation des femmes dans la musique, comment elles sont visibilisées, les discours qu'elles peuvent tenir sur leur place en tant que femmes.
Oui. Là où je trouve ça intéressant d'étudier ce que la musique raconte de la société, c'est que je trouve que c'est pas comme dans le monde du cinéma où les acteurs, actrices, il y a quand même une distance entre qui ils sont eux réellement et les personnages qu'ils jouent. Je prends un exemple, un acteur que j'adore qui s'appelle Robert Pattinson. Finalement, on en sait assez peu sur lui. De manière générale, il est très privé, alors que il est très souvent sur le devant de la scène, il fait des rôles énormes. Alors que quand on est chanteur ou chanteuse, je trouve là la frontière est beaucoup plus ténue, c'est-à-dire que
l'incarnation
là il y a comment dire un brouillage entre guillemets des limites entre ce qui relève de la scène, de l'art et ce qui relève de vraiment la vie privée de la personnalité, parce que ces personnes, en général, s'inspirent de leur vie privée pour écrire des textes et chanter ensuite derrière. Et je trouve qu'il y a une personnification beaucoup plus forte que dans d'autres domaines artistiques. Et dans le cadre des chanteuses féminines notamment, je trouve que observer les réactions qu'il y a pu avoir autour d'elles à certains moments clés de leur carrière, en général, ça donne le pouls de la condition des femmes à ce moment-là, ou en tout cas du discours ambiant qu'il y avait sur ces questions-là. Par exemple, on peut penser à Madonna, qui dans les années 80 arrive vraiment comme un gros boulet de canon en étant hyper sexualisée et en étant
la sulfureuse, même,
tout sulfureuse, ouais. Presque, enfin accusée de blasphème parce qu'elle chantait devant des croix en feu. Enfin, elle, son but aussi, c'était de choquer l'Église parce qu'elle avait grandi là-dedans et ce qui l'avait toujours beaucoup emmerdée. Mais c'était un point où le pape Jean-Paul II avait pris la parole publiquement pour appeler à boycotter sa venue en Italie sur la tournée The Blonde Ambition Tour. On a un peu du mal à imaginer que le pape puisse faire ça aujourd'hui. Après, on ne sait jamais, hein. On est aussi en période un peu de recul là sur les droits des femmes et puis des minorités de manière générale, donc soyons prudents. Mais tu vois, quand on se rend compte de ça en 2025, quand on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit ah ouais, quand même, putain, c'est quelque chose, quoi. Ou très vite aussi, du fait que dès qu'elle a passé les 33 ans, on a commencé à dire qu'elle était trop vieille pour chanter. Donc ça aussi, c'est un sujet qui concerne beaucoup plus les femmes que les hommes dans la musique, c'est l'injonction à rester jeune. On n'a pas de problème à voir, enfin voilà, tu vois, Léo Ferré, le pauvre Renaud, encore actuellement, qui continue à faire de, on sait pas trop pourquoi, arrêter, des concerts, voilà, qui n'a plus l'air en état du tout, et puis qui est assez âgé quand même aujourd'hui. Donc, t'as ça, t'as les Spice Girls qui, elles, arrivent avec le côté très girl power des années 90, qui à la base a émergé dans les scènes punk féminines des États-Unis, plutôt comme un ras-le-bol justement aussi du sexisme des scènes punk, mais qui forcément passe ça un peu à la javel du capitalisme, du libéralisme.
C'était quand même très stéréotypé aussi.
C'était un girls band, sportive, un peu monté de toutes pièces. On a le sentiment de l'extérieur, quoi.
Oui, bah justement, elles ont été vachement critiquées pour ça, parce que le groupe a été formé à la suite d'une audition. Il y avait une petite annonce dans un magazine. C'était deux producteurs qui cherchaient à monter un girls band parce que les boys bands étaient très à la mode. Ils se sont dit, bah, faisons la même chose avec des femmes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ensuite, elles ont été mises dans une maison et on leur a vraiment appris à chanter et danser, comme ce qu'on fait à la Star Academy, sauf que ça n'existait pas à l'époque, quoi. Donc finalement, ces deux producteurs-là, ils avaient eu un peu le nez fin, mais pour autant, tu vois, derrière, elles trouvaient que ça allait trop lentement, donc elles ont, la légende dit qu'elles ont volé leur masters, et puis qu'elles sont allées chercher un producteur qui allait enfin leur faire enregistrer un album parce qu'elles étaient impatientes. Donc, mais de là aussi est née cette idée, je pense, avec les Spice Girls, que les pop stars féminines, c'est forcément des femmes qui sont manipulées en coulisses par des hommes, qui sont pas des vrais artistes, qui n'ont pas de vraie liberté artistique. Souvent, la vérité est plus complexe que ça. C'est comme Britney Spears, par exemple, elle a participé à l'écriture de sa musique. C'était quelqu'un qui était très investi dans l'invention des chorégraphies aussi pour ses clips, ses looks, etc. C'était pas du tout une femme passive comme ça qui attendait qu'on lui dise quoi faire. Non, elle était très très travailleuse.
Et tu parlais des Spice Girls parce qu'elles ont pu incarner à une époque une espèce de girl power, un truc comme ça, un peu genre on est, alors féministe, je sais pas, mais en tout cas on incarne une femme un peu triomphante, en tout cas voilà, qui peut avoir du pouvoir. Mais en réalité, avec notre regard d'aujourd'hui, en tout cas, on n'était pas encore vraiment arrivé à ce point-là, quoi, tu vois.
Non, elles-mêmes ont vécu énormément de sexisme et vraiment des choses très, très violentes à leur époque. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que le groupe n'a pas tenu très longtemps, parce qu'en fait, c'était trop difficile de réussir à tenir sur la longueur. Et puis, elles, par exemple, rejetaient complètement le féminisme à l'époque. Elles disaient, parce que c'était dans cette époque-là, ce qu'on appelait le post-féminisme, c'est-à-dire après les avancées des années 70, donc l'accès à la pilule, l'avortement, etc., on s'est dit, bon, bah, là, ça y est, égalité salariale, toutes les femmes ont, enfin, les femmes ont tous les mêmes droits que les hommes, il n'y a plus de raison de se plaindre ni de se battre. Donc, et a émergé cette idée dans les années 80, la période où elles ont grandi, quoi, où elles étaient enfants, que ça y est, les femmes étaient les égales des hommes, il n'y avait plus de raison de se plaindre, et Jerry Halliwell avait notamment dit, pour moi, les féministes, c'est des lesbiennes qui brûlent leur soutien-gorge. Donc, on voit, en fait, le sexisme aussi intégré de l'époque où elles étaient très fans de Margaret Thatcher, ce qui peut paraître complètement fou, mais qu'on oublie souvent. Et en fait, à nouveau, ça raconte quelque chose de leur époque. Elles ont grandi dans le thatchérisme, dans cette ère de l'ultralibéralisme qui était vraiment dans un truc plutôt très individualiste, avec l'idée que si on veut, on peut, quoi. Il suffit de se donner les moyens et de bosser. La méritocratie, etc. Et elles étaient complètement dans ces modèles-là. Et c'est marrant de voir aujourd'hui, justement, et je l'étudie dans mon livre, la réécriture qu'on a aujourd'hui de ce qu'elles ont apporté aux femmes de manière générale, ou des femmes de ma génération. Donc je suis une milléniale, je suis née en 91. Quand elles sont arrivées dans la vingtaine, se sont dit, mais en fait, ce qu'elles faisaient, les Spice Girls, c'était super, et en fait, ça m'a amenée vers le féminisme. Et donc il y a eu tout un courant de réhabilitation des Spice Girls, comme quoi, en fait, elles ont quand même porté une certaine idée du fait d'être une jeune fille, de les encourager à la sororité, de demander l'égalité des droits. Donc ça a quand même, c'était pas parfait, mais c'était un début, c'était une porte ouverte vers quelque chose de plus. Mais il a fallu pour elle attendre 15 ans pour que des femmes, notamment, commencent, voilà, qu'on leur donne ce rôle-là, alors qu'à leur époque, les féministes étaient très en colère contre elles, et elles en ont pris plein la tronche. C'était pareil pour une grande partie des féministes aussi par rapport à Madonna. Par exemple, Bell Hooks, qui est une grande autrice féministe, était très 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 critique de Madonna et de Beyoncé aussi, parce qu'elle se situait plutôt du côté des féministes qui étaient contre l'hypersexualisation des femmes. Et du coup, elles estimaient que des figures comme Beyoncé ou Madonna, même les Spice Girls, ça venait renforcer le patriarcat, parce qu'en fait, pour elles, c'était pas possible de se sexualiser sans jouer le jeu du patriarcat.
En fait, voilà. C'était du male gaze à fond. Mais du coup, les injonctions étaient un peu contradictoires, quoi. Oui. Parce que c'est vrai que, moi, tu parlais de Britney Spears. Et, en fait, tous les enfants qui ont démarré en tant que star Disney, ont essayé de péter leur image.
Oui.
Et donc, pour les femmes, ça passait par justement une hypersexualisation. Oui. Donc, on parle de Britney Spears, mais je me rappelle de Christina Aguilera,
bien sûr.
Miley
Au
Cyrus,
même moment,
ouais. Voilà, où c'était vraiment limite, t'étais en mode waouh.
Oui. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est que Britney, elle a créé justement ce cheminement de, bah, un peu le manuel de comment faire quand t'as été.
Enfant Disney,
star enfant, ouais. Enfant Disney ou Nickelodeon, pour un, au bout d'un moment être prise au sérieux, et ben tu t'hypersexualises. Et en même temps, là aussi, à nouveau, moi c'est pour ça que, enfin, à la fois j'ai un regard critique, mais j'ai aussi beaucoup de compassion pour ces femmes parce que elles ont été soumises à ces injonctions contradictoires et elles ont été très souvent extrêmement critiquées. Mmh. Britney, je pense qu'on s'en souvient, on l'interrogeait tout le temps sur alors t'es vierge ou pas, t'es vierge ou pas, t'es vierge ou pas, à ses débuts.
C'est fou en fait quand, de dire que ça c'est un sujet. Enfin,
quand elle avait 16 ans, 17 ans, donc une jeune fille mineure, et même Taylor Swift, du coup, en ayant bah là aussi beaucoup travaillé sur la réception médiatique autour d'elle, je me suis rendu compte que pareil dans ses premières interviews. On lui posait ces questions-là, donc à la fin des années 2000, donc elle a commencé à émerger en 2005, 2006, 2007, et on essayait justement aussi de la montrer comme l'anti-Britney. Donc il y a ce truc aussi d'essayer de monter les filles contre les autres, parce que c'était l'époque où Britney bah, commençait entre guillemets à péter un plomb, et en fait ça se comprend, parce que qui ne péterait pas un plomb quand on est observé comme ça et jugé, et puis qu'on te reproche tout et son contraire depuis plus de 10-15 ans. Et Taylor Swift a essayé d'empêcher ça à une époque en disant j'ai pas trop envie qu'on me voit comme l'anti-Britney, parce que c'était pile vraiment l'époque de la mise sous tutelle, etc. Mais enfin, en fait, c'est pour ça que moi, en tant que journaliste, en tout cas, j'aime m'intéresser au traitement médiatique autour de ces stars-là, parce que je trouve que ça dit quelque chose de l'époque. Et il faut faire, je pense, ce travail de remise en question aussi.
C'est intéressant aujourd'hui. Parce qu'effectivement, dans ton livre, tu parles beaucoup de cette période Spice Girl. Et puis en fait, tu dis que d'une certaine manière, elle a été dépolitisée. Effectivement, elle avait un rapport au féminisme, etc., compliqué, qu'elle revendiquait pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une période, justement, où on a repolitisé ces questions. Oui. On peut assumer du féminisme, etc. D'ailleurs, Domiti, j'aimerais bien que tu... Est-ce que toi, t'as l'impression presque d'être une militante en faisant un podcast comme Sister of the Sound? Est-ce que t'as l'impression d'avoir une dimension politique dans ton travail ou pas forcément?
Bah, moi, personnellement, je le fais naturellement. Donc, enfin, je l'ai fait parce que, à la base, pendant le Covid, il y a une musicienne qui m'a dit « Ah, voilà, c'est le Covid, c'est la merde et tout. Hein. » Ça dit, on se fait une visio avec des copines musiciennes pour voilà discuter. C'est parti de là. Et en fait, c'est formé une sorte de collectif de musiciennes qui existe toujours et on s'entraide vachement, on discute beaucoup, etc. Et en fait, donc il y a beaucoup, beaucoup de sororité. Et c'est parti de là. J'écoutais, moi, j'adore écouter les gens. Donc je les écoutais parler et je me disais « Mais ça me... » En fait, c'est toujours l'effet miroir, mais enfin, ça me porte quoi d'entendre ça en fait, et je trouve ça hyper intéressant. Et je me dis, il y a peut-être une musicienne isolée dans la Creuse qui est dans le bad, et ça lui ferait du bien d'entendre ça quoi. Donc c'était ça le point de départ. Donc et c'est plutôt le retour des gens qui m'a même à me dire, ah bah oui, en fait, c'est hyper politique ce que j'ai fait, mais c'était pas conscient en fait. Moi, à la base, c'était bah, j'aimerais bien aider d'autres nanas, en fait. D'ailleurs, enfin, je l'ai vraiment fait pour d'autres musiciennes. Et puis, c'est marrant parce que...
plus dans le care, presque, que...
Ouais, carrément.
Oui. Tu voyais plus comme une démarche de care qu'une démarche politique, quoi.
Bah, parce que pour moi, ouais, ça s'adressait à d'autres musiciennes. Mm. Et en fait, c'est le retour des gens qui m'a fait me dire, bah, déjà, j'ai eu beaucoup de retours d'hommes. Et donc, c'est marrant parce que, à la base, c'était pas la cible. Et des retours super. Enfin,
oui, voilà, parce que ça peut être des retours en mode mansplaining.
Pas du tout.
Je pourrais faire comme ça.
Non, à l'inverse, il y a des gars qui m'ont dit, putain, merci, parce qu'en fait, je me rendais pas compte, notamment justement sur la technique, sur des petites phrases de, attends, je vais le faire à ta place, tu sais pas, des petites choses comme ça. Et donc, un mec qui m'a remercié pour me dire, pas en m'écoutant moi, mais en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais aussi.
Ouais, tu réalises, ouais.
Et du coup, maintenant, je vais faire attention. Donc, je me disais, ah ben, c'est chouette.
Mais du coup, est-ce que ça te met une, parce que toi, tu le fais de manière naturelle? Tu vois, tu fais le truc comme t'as envie de le faire. Le fait d'avoir du coup des retours qui changent la perception que toi tu pouvais avoir du programme, est-ce que ça te met une pression après quand toi tu dois faire d'autres épisodes en disant il faut que je pense aussi à vraiment angler le discours ou tu continues à le laisser en free flow en fait
Non,
est-ce que tu te mets une pression supplémentaire parce que tu comprends,
une espèce de responsabilité presque.
Ouais, tu conscientises que t'es responsable un petit peu de quelque chose ou...
Non, c'est juste je fais attention aux termes. Ouais. Par exemple, pour moi c'était hyper important de parler des violences sexistes et sexuelles parce que il y a un vrai sujet, clairement. Ouais. Et là par exemple c'est quand même un sujet qui est assez sensible, assez délicat à traiter, où tu te dis voilà, enfin comment je vais en parler, pour faut pas que ce soit voyeuriste, faut pas, je veux pas en parler. Par exemple dans cet épisode, il y a pas de, enfin il y a des témoignages, mais c'est pas des témoignages de musiciennes qui en auraient été victimes, parce que je me disais je vais les mettre dans la merde si je fais ça. Donc j'ai eu des trucs des fois en off, des confessions, des trucs, mais ça j'ai, je voilà, c'était
tu en parles pas.
Non, là, donc c'est plus ça, c'est de OK, tu dis ouais, quand même tu peux pas dire n'importe quoi, n'importe comment,
faut respecter les gens. Tu prends conscience de la gravité de certains sujets et que tu
ouais,
peux
voilà,
pas les traiter,
tu peux pas les traiter voilà, tu réfléchis quand même aux mots que tu utilises, ou tu vois, c'est ce côté-là en fait. Mais après sinon dans la démarche, en fait moi à la base dans la démarche, ce qui est assez drôle, c'est que la démarche, elle était de parler de du vécu des musiciennes. Et c'est en faisant les interviews qu'à chaque interview, je sortais des interviews, je me disais putain, c'était pire, c'est pire ce que je pensais en fait. À chaque fois.
C'est pareil quand j'ai fait des recherches pour le livre. C'était quand j'ai fait des recherches de statistiques. Ouais, je me suis dit ah oui, je savais que ça se passait pas bien, mais en fait les chiffres ils sont parlants. Ça vient vraiment matérialiser une réalité. Et je me suis pris une grosse claque, en fait. Ah ouais, d'accord. Et même, tu vois, toutes les études, peu importe les pays, des études qui sont menées sur 20 pays en même temps, où notamment, les violences sexistes et sexuelles, on le voit, proportionnellement, sont plus importantes dans la musique que dans d'autres milieux professionnels. Donc, ça montre bien qu'il y a un souci.
C'est un chapitre de ton livre, d'ailleurs.
Oui.
Mais on reparlera spécifiquement des VSS. Ce que je vous propose juste, c'est peut-être, parce que on est un podcast beaucoup étudié et écouté par des musiciens, par des gens qui aiment vraiment la musique, etc. Et cet aspect technique là qui revient régulièrement depuis le début, je trouve hyper intéressant. Alors peut-être que Domiti, tu peux commencer. Et après, je suis sûr qu'on peut faire des parallèles aussi avec ton travail, Morgan. Par exemple, t'as un épisode dédié à ça, les femmes et la technique. Mm-hmm. Et il commence tout de suite, vous commencez à parler de l'accueil technique. Parce qu'en fait, il est assez symbolique, il marque quelque chose. Est-ce que tu veux nous parler de ça?
C'était l'angoisse.
tu peux nous rappeler c'est quoi l'accueil technique?
Alors, l'accueil technique, c'est-à-dire tu arrives. Alors là, je prends l'exemple de si tu es une femme en solo. Parce que si tu es un groupe...
Donc, tu es une artiste.
Voilà. Par exemple, tu es une artiste, tu arrives avec tes instruments, ton micro, peu importe. Voilà. Et donc, l'accueil technique ou les balances, c'est le moment où tu vas t'installer et voir avec l'ingé son pour régler le son, etc. Et répéter, faire les réglages avant le concert, quoi. Donc, c'est un moment... je parle pas que pour moi, parce que je le sais d'autres musiciennes et qui en parlent, qui redoutaient, quoi. Redoutaient pour les nanas, parce que... Alors, à la fois parce que en fait, on est tellement éduqué à, on nous dit tellement qu'on est nul en technique. Enfin, je veux dire,
mais c'est un peu la récalcitie autoréalisatrice.
C'est-à-dire, on n'a pas confiance. On manque, voilà. Donc, il y a ce truc de syndrome de l'impostrice, de légitimité, de trucs. Donc, déjà, toi, t'es dans une position où tu te dis, tu stresses, quoi. Tu te dis, est-ce que ça va bien se passer? Et derrière, du coup, alors, c'est pas du tout une généralité, parce qu'heureusement, il y a quand même plein de gens bien, donc je veux pas, voilà. Mais c'est quand même arrivé à pas mal de musiciennes de pas toujours non plus être bien accueillies. Dans le podcast, par exemple, il y a une des filles qui raconte que le mec, en fait, va sur scène, carrément, donc c'est une bassiste, il va sur scène, et il commence, sans lui dire et sans lui demander, à changer, en fait, les réglages de son ampli basse. Tranquillou, insupportable, sans lui dire. Et après, le mec prend carrément sa basse, quoi. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais je trouve assez parlant. Et en fait, ce qui est très difficile dans ces cas-là, c'est que quand on est musicien indépendant, on n'a pas toujours son propre ingé son. Et selon les salles, ça va être l'ingé son de la salle. Et donc là, ce qui est très difficile, ou alors le mec te fait une blague sexiste, enfin voilà. Et en fait, ce qui est très difficile, c'est que en fait, le mec, il fait ton son. Donc, en fait, et c'est juste avant ton concert, ce qui est quand même un moment où t'es bien vulnérable.
T'as besoin que ce soit un allié.
Donc, il faut qu'il fasse bien ton son, et t'as pas que ça à foutre de recadrer les choses à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles à sa blague, ou ça te met dans une situation qui est quand même, compliquée, quoi. Et donc, mais il y a un vrai sujet quand même à, et aussi parce que on nous met, on disait qu'il y avait plein d'exemples de musiciennes, mais quand même, il faut remarquer que c'est quand même souvent des chanteuses. Donc il y a aussi ce truc de, en fait, on a le droit d'être chanteuse, jeune, belle, pop star, etc. Mais si tu veux faire de la basse, par exemple, si tu veux faire de la MAO, si tu veux faire, c'est genré. Donc ces aspects-là techniques, on va peut-être aussi moins se sentir à notre place.
On en parlait avec Lola Frichet, d'ailleurs.
Absolument, qui est bassiste.
D'ailleurs. Qui est bassiste.
puis qui est derrière le mouvement More Women on Stage et Backstage. Oui. Absolument. Ça m'évoque ce rapport à la technique. Il y a aussi la question d'une forme de légitimité, en fait, de dire est-ce que je suis en pleine mesure, voilà, moi qui suis artiste, est-ce que c'est réellement moi derrière tout? Et en fait, ça me fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure, tu l'as évoqué rapidement, Morgane, autour des pop stars, etc. C'est vrai, alors, je pense que ça peut aussi toucher parfois les hommes, mais peut-être plus les femmes, de se dire, non mais à tel niveau, c'est surtout des grands interprètes, des grands showman, mais fondamentalement, typiquement la technique, ils y connaissent probablement rien.
Oui.
Enfin, y a un truc un peu qui ressort comme ça.
Oui, en fait, je pense que ça va avec ce qu'on voit comme la culture légitime en ce qui concerne la musique. Il faudrait qu'ils soient vraiment tous des femmes et hommes orchestres qui savent absolument tout faire. Et là, on va se dire, OK, ils méritent d'être là. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui sont entre guillemets que interprètes parce que c'est aussi un métier. Moi, je serais pas capable d'aller sur scène et de chanter devant plein de gens et de porter des textes. Donc ça m'agace aussi beaucoup. Et puis, par ailleurs, c'est une transformation de l'industrie musicale, où on voit de plus en plus, tu vois, des petites ruches d'auteurs professionnels qui se réunissent entre eux pour écrire des tubes à l'appel. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est pas à la fois des interprètes qui sont aussi parfois tributaires de ça, qui n'ont pas trop le choix. Et en même temps, quand c'est des femmes qui arrivent avec leur guitare ou je sais pas leur banjo, dans le cas de Taylor Swift à ses tout débuts, et qui disent écrire leur texte, on va aussi les remettre en question. Ah bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je suis pas trop sûre. Et donc, dans son cas, par exemple, son troisième album, qui est sorti en 2010, elle avait décidé de l'écrire toute seule, parce qu'elle en avait marre qu'on dise oui, mais ça doit être surtout sa coparolière, la Lise Rose, qui doit quand même, on va pas se leurrer, écrire la majorité des paroles. Donc une dame qui avait une quarantaine d'années à ce moment-là, qui avait décidé accepter de travailler avec elle. Elle l'avait rencontrée à Nashville et en ayant marre de ces remarques-là, son troisième album à 19-20 ans, elle dit puisque c'est comme ça, je vais écrire toute seule et vous allez arrêter de me faire chier et de mettre en doute. Donc on voit bien qu'à nouveau, très souvent, peu importe ce que font les femmes, ça ne va pas. C'est-à-dire que si elles écrivent pas, ça ne va pas, donc tu n'es pas légitime. Si elles disent mais en fait je compose et je produis et je voilà, est-ce que c'est vraiment toi qui as fait tout ça? C'est quand même un peu suspect. Donc il y a sans cesse une remise en question de leurs paroles et elles doivent quand même beaucoup plus faire leurs preuves que tes mecs.
Qui peut toucher aussi les hommes. C'est vrai que tu vois, je pense à quelqu'un comme Justin Timberlake, Justin Bieber, des choses comme ça. Je pense que c'est des figures aussi où on peut remettre en question leurs réelles compétences musicales, ce qu'ils savent réellement faire, etc. Mais ça se pose, tu penses, dans une autre mesure pour les femmes?
Oui, dans une autre mesure, parce que je pense que Justin Bieber, ce qui lui a coûté finalement, c'est qu'il a commencé très jeune.
Sa jeunesse, oui.
Et que du coup, il avait un public très très jeune et féminin, donc des adolescentes. Il y a rien qu'on aime mieux que de s'amuser des goûts culturels des adolescentes et de les ridiculiser. Donc par ricochet, forcément, Justin Bieber, ce qu'il faisait, c'était nul. Et c'était pareil pour les One Direction à leur époque. Moi, je me souviens que quand je les avais vus sur scène, c'était un peu vers la fin, je les avais vus à Londres. Il était déjà parti, Zayn Malik, à ce moment-là. Je me disais, je regardais Harry Styles et je me disais, ouais, quand même, le mec, il a quelque chose, quoi. Enfin, il peut pas en rester là, c'est pas possible. Et ça a été le cas. Et donc ça va, et ça j'en parle beaucoup dans Féminisme et Musique, le fait que très souvent le mépris qu'on porte à ces artistes là aussi, donc des artistes notamment, donc du coup dans ce cas là qui peuvent être effectivement parfois des hommes, ou ça peut être les boys band aussi, le mépris qu'on a envers eux, forcément par ricochet c'est un mépris qu'on a envers leur public en fait, qui s'avère être des publics majoritairement féminins et ou LGBT. Donc, mais ça, souvent, c'est un impensé. On va pas jusque-là. Sauf que c'est la réalité du marché de la pop, notamment, tu vois, aujourd'hui. C'est que ce sont majoritairement, encore aujourd'hui, des publics féminins et LGBT. Donc, si on en vient vraiment à mépriser ces artistes-là, parce qu'ils parlent à des très jeunes générations et parce qu'on a un peu ce truc de... J'espère que je l'aurai pas. Ça se trouve, je vais être comme ça aussi plus tard, mais que, c'était mieux à mon époque ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est des choses qui se mélangent, en fait, je pense aussi, de mépris envers les cultures jeunes. Mais de mépris envers ce qu'aiment les jeunes filles et ce qu'aiment les publics LGBT. Et il faut le questionner.
C'est ce qui s'est passé avec Timberlake quand il est sorti de NSYNC. Ouais. Il a fallu qu'il se mette à bosser avec Pharrell Williams, avec Timbaland pour être légitime, pour qu'on commence à dire ah ouais, en fait il est carré, tu vois.
Et puis quand il est devenu aussi peut-être un peu plus pointu dans ses choix, ses influences, son entourage, etc. C'est vrai que tu vois, il est devenu plus crédible, entre guillemets. S'il était resté que très très pop, effectivement, il aurait probablement pas connu cette réhabilitation qu'il a un peu connue, j'ai l'impression, quand même, de Justin Timberlake.
Il n'est pas quoi.
Ouais. Après, voilà, autre sujet, mais c'est pas un bon gars non plus, tu vois.
Ah non.
Mais,
ah ouais, ça je connais pas, c'est vrai.
Ah bah,
il
bah
a l'affaire
des...
du, bah typiquement, oui. Tu vois l'affaire du Super Bowl, Janet
ah,
Jackson,
oui, c'est vrai.
Il
a, oui.
Où
il a fait complètement le mec qui était pas au courant.
Oui,
alors
voilà.
C'était un truc où
donc on rappelle, c'était un show, donc à la mi-temps là du Super Bowl,
Super
à chaque
Bowl.
Fois il y a des concerts de malades, oui. Et donc il y a eu, ils dansaient ensemble.
C'est l'événement le plus sportif, le plus, enfin c'est l'événement le plus regardé à la télévision chaque année aux États-Unis.
Et donc il y a ce concert où ils sont ensemble, Janet Jackson et Justin Timberlake, et donc
à la fin.
Et il lui retire un vêtement et on voit un sein.
En fait, il lui retire il y a des,
un bout
des,
de son corset.
Des cache-tétons, en fait, ouais. Qu'elle avait sur son costume. Et il l'enlève et du coup, bah, on voit les tétons de Janet Jackson. Scandale intercontinental.
Qui en plus, tu vois dans sa posture, elle se replie tout de suite, elle sort de scène vraiment comme ça. Donc on voit que c'était pas prévu et on voit qu'elle est mal à l'aise. Et derrière, j'en parle un peu dans mon bouquin, lui, il a quasiment pas soutenu.
Il l'a jeté au lion, en fait.
Il l'a laissé
bus,
et elle a un peu tout pris pour lui.
Elle s'est exprimée là-dessus. Moi, je savais pas, par exemple, dans ma tête, comme je m'étais jamais penché là-dessus, j'avais toujours en tête peut-être que c'était un truc prévu, etc.
Non, pas du tout.
Ah ouais.
En fait, le geste était prévu,
ouais.
Mais il l'avait répété avec le costumier, mais elle devait avoir un truc en dessous qui cachait quand même le sein. Et je sais pas, sur le moment accident, il a peut-être tiré trop fort et en fait il a arraché la doublure qu'il y avait en dessous, quoi. Mais c'était pas du tout prévu qu'elle se retrouve seins nus, en tout cas. De toute façon, à nouveau, tu le vois, la tête qu'elle a faite, vraiment pas bien. Et derrière, faut se rendre compte que c'est une époque, les années 2000, c'est une décennie bizarre aussi aux États-Unis, parce qu'à la fois il y a un gros puritanisme qui fait que monter depuis les années 80, qui là depuis Reagan et qui là, et c'est beaucoup le cas sous Bush. Et en même temps, c'est les années Britney Spears, Christina Aguilera, Shakira, donc ou Beyoncé, où on voit de plus en plus toutes ces jeunes relèves à Madonna, justement, qui suivent la même voie qu'elle. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer mon livre par elle, parce que c'est elle qui a créé le modèle de la pop star féminine telle qu'on la connaît aujourd'hui, notamment qui passe par l'hypersexualisation. Du coup, Janet Jackson, en plus, en tant que femme racisée, fait un peu paratonnerre à ce moment-là, en fait, je pense, de toutes les contradictions états-uniennes, qui étaient que elle a été sexy, mais là elle a été trop sexy, c'est allé trop loin, et même si c'est un accident, on va estimer que c'est de sa faute, qu'elle est responsable. Et mais ça a été tout un truc où en fait, comme c'était la même chaîne qui diffusait les Grammys, on leur a demandé de présenter leurs excuses au patron. Je crois qu'elle l'a fait la première fois, mais ensuite elle a pas voulu réitérer. Justin Timberlake, lui, pour le coup, il a vraiment joué le jeu. Il était vraiment en mode, je suis vraiment désolé. Je pense qu'il était comme ça.
Ouais,
en mode,
ça.
J'ai pas envie de, justement me faire boycotter à cause de ça. Et elle, en fait, a été abandonnée ensuite parce qu'elle, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais en fait, j'ai à m'excuser de rien. C'était un accident. C'est pas ma faute. J'ai pas voulu que ça arrive. J'ai pas fait exprès. Mais aux États-Unis, ce genre d'événement, ça pouvait prendre des proportions où les politiques s'en mêlaient. Enfin, bon, je dis ça, ce serait certainement le cas en France aussi. Enfin, et encore, je sais pas. Mais bon, bref. Enfin, en ce moment, oui, je pense. Mais, notamment, ça a été un truc sur lequel Justin Timberlake a été complètement nul. Il a complètement lâché là-dessus. Tout comme il a aussi jeté Britney au lion quand il a dit, ouais, d'accord. En fait, c'est vrai, on a couché ensemble quand on était ensemble. C'était une période où elle continuait à dire non, je veux rester vierge jusqu'au mariage. Donc, il a fait éclater ce truc-là sans lui demander son consentement. En fait, il en a parlé à sa place. Donc, ouais, c'est une figure compliquée.
Ouais,
Justin Timberlake.
C'est un connard. Ouais,
tu l'as dit.
Ouais,
c'est le fond de ma pensée.
Ouais.
Pour continuer cette espèce un peu de ping-pong qu'on fait depuis le début entre toi, ton travail, Morgane, sur les pop stars, etc. Et puis toi, Mithy, tes rencontres avec des artistes indépendants à peut-être un peu plus petite échelle. Quoique, il y a quand même aussi quelques beaux noms avec qui tu t'es entretenu. Je pense à Jeanne Adède, à Émilie Simon, des choses comme ça. Et puis en même temps aussi des musiciennes un peu plus dans l'ombre. Et en fait, il y a plein de parallèles. C'est-à-dire que ce à quoi se heurtent les pop stars, en écoutant ton podcast, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce truc, tu sais, de trouver le bon ajustement en tant que femme, être ni trop ni pas assez, c'est un truc qui est constant et hyper difficile. Et vraiment, j'ai l'impression propre aux femmes. Là où les hommes peuvent être radicaux. Et
disons que je pense que quand t'es un mec et que tu vas sur scène, la question c'est la musique. Voilà, tu fais ta musique en fait. Et quand t'es une nana, il faut quand même un petit peu, tu ressens une injonction de comment tu vas te positionner en tant que femme. C'est-à-dire que toi, tu viens pour la musique aussi. Moi, je viens pas performer la féminité. Parce que le titre de l'épisode, il s'appelle Performer la féminité, parce qu'il y a ce truc de. Alors, est-ce que tu vas faire le choix d'être une pop star? Est-ce que tu vas te maquiller? Comment tu vas t'habiller? Comment tu vas? Et ça, c'est un truc qui est hyper fort, quoi. Il y a une nana, par exemple, qui dit, elle avait passé un tremplin pour un jury, etc. Et ils ne lui ont parlé que de sa tenue. Voilà. Ce, tu ferais jamais ça avec un mec. Ouais. Un mec, il peut se permettre de se pointer en jean ou n'importe comment, en fait. Enfin,
alors,
et peut-être pas, peut-être que j'accentue.
Non, non, mais
en fait, peut-être qu'on va dire est-ce que c'est un costume, est-ce que machin, mais on va pas lui dire est-ce que t'es assez un mec. Ou est-ce que t'es
pas sur le genre de mec, tu vois. C'était pas sur la représentation de la masculinité, mais ce que tu dis, il y a beaucoup d'artistes hommes qui l'ont vécu quand ils étaient dans des milieux marginaux. Mmh. Je pense au hip-hop, évidemment. Mmh. Où dès que t'avais un groupe de rap à la télé, c'était calamiteux. Oui. C'était à la fois du racisme et du classisme. Mmh. Tu vois, il y avait un côté un petit peu, mais alors, vous faites quoi pour la banlieue? Tu sais, comme si t'es artiste, tu viens parler de ta musique, mais t'es responsable de tout le quartier. Tu vois, ce genre d'injonction. Donc, c'est quelque chose que, notamment, les racisés et les classes populaires ont aussi vécu. Alors, je laisse imaginer qu'en plus, t'es une femme qui fait du peura issue des classes populaires et racisée. Bon, bah, là, tu te prends la complète, tu vois. C'est vraiment,
De toute façon, c'est dans vos travaux à toutes les deux, on voit que l'idée, entre guillemets, d'intersectionnalité, c'est-à-dire que être une femme, bah, évidemment, c'est plein de barrières. Et puis, il y a aussi la question socio-économique, qui est une barrière. Mais en fait, après, tout ça s'entremêle, en fait.
Ouais,
et puis,
être
racisé éventuellement, etc. En fait, c'est pas forcément à opposer, à dire chacun a son propre vécu.
Non,
mais
non,
juste...
et par contre, c'est vrai que t'as raison, que, en fait, on demandait aux artistes, notamment donc rap, ce qu'ils faisaient pour la communauté, ce qu'on demanderait jamais à un artiste pop ou rock, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que, contrairement à ce que les femmes ont pu connaître, on demandait jamais à un mec d'expliquer en quoi il était plus mec ou moins mec, tu vois. Il avait pas cette injonction-là,
c'est pas vraiment un sujet,
ouais.
Et d'ailleurs, il y a une des musiciennes qui est d'origine franco-vietnamienne. Mm-hmm. Et du coup, elle disait que ça, c'était, voilà, elle se sentait devoir à chaque fois, c'est pas un sujet dans sa musique, sauf que du coup elle devait s'en justifier, c'est-à-dire qu'on va attendre que ce soit qu'elle incarne l'Asie, quoi.
Ouais, enfin, c'est la fétichisation donc c'est aussi un biais raciste,
donc c'est ce que tu dis, voilà, c'est exactement le même mécanisme que nous on s'en fout, en fait, s'en fout. On peut être hyper sexualisé, mais on peut aussi ne pas l'être. Enfin, oui. Je veux dire, c'est juste on aimerait avoir le choix que ce soit pas forcément un sujet, en fait.
Mmh. Oui.
Mais c'est marrant parce que ça Morgane, on le voit dans ton bouquin, c'est que là, en l'occurrence, les discours féministes, tu parles d'intellectuels, etc., ils se sont pas tous d'accord sur cette question, justement, de la sexualisation, etc. Ouais. Je sais pas, toi, peut-être Morgane, tu peux nous en parler. Après, Domiti, tu nous diras, toi, ton regard et les gens que t'as pu, avec qui tu as pu t'entretenir, quel rapport ils entretiennent, justement, à ça, à cette performance de la féminité dont tu parlais?
Non, oui, en fait, les féministes sont très divisées sur le sujet depuis les années 80. En fait, dans les années 80, il y a eu ce qu'on a appelé les féministes sex wars, c'est-à-dire que après justement à nouveau le fait d'avoir obtenu la contraception et l'IVG notamment, forcément ça veut dire libération sexuelle des femmes parce que la sexualité n'est plus assignée au risque de maternité, en tout cas beaucoup moins. Et du coup, c'est posé la question, bah, qu'est-ce qu'on fait de la sexualité en tant que femme, en fait. Et donc, t'as eu, en fait, un peu deux camps, pour schématiser très grossièrement, qui se sont créés. Celles qui sont pro-sexe, qui vont estimer notamment que assumer la sexualité, mais aussi le travail du sexe, des professions aussi qui peuvent graviter autour de la sexualité, que tout ça, c'est important, ça participe de la libération des femmes et de l'égalité entre les genres. Et de l'autre, t'as celles qu'on a appelées les abolitionnistes, plutôt, qui vont être anti-pornographie, anti-travail du sexe, notamment, qui estiment que, par exemple, ces métiers-là ne peuvent pas exister au sein du patriarcat parce que ça revient forcément à exploiter les femmes. Et en fait, les pop stars, à nouveau, là-dessus, je trouve, elles font paratonnerre. C'est-à-dire qu'elles viennent capter les tensions de leur époque autour de ces questions-là. Et on l'a vu, par exemple, déjà dès Madonna, moi, j'étais surprise de me rendre compte que Bell Hooks, qui a été une grande critique culturelle, donc qui était cette grande féministe qui a beaucoup écrit sur ce que c'était d'être une femme noire aux États-Unis, donc un pays qui a été quand même basé sur l'immigration, mais aussi sur l'esclavage, et qui était par ailleurs queer, était très, 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 très critique de l'hypersexualisation de Madonna. Car pour elle rentrait plutôt dans cette idée abolitionniste de... c'est pas possible, en fait, de se sexualiser sans venir alimenter le male gaze. Pour elle, en tout cas, la manière dont Madonna le faisait, c'était ça. Elle l'accusait aussi de s'approprier les cultures LGBT, par exemple, avec le voguing. Ça, il y avait eu déjà tout un avec sa chanson Vogue, du coup, à l'époque, où il y avait eu toute une dissension à cette époque-là, déjà, à la sortie du morceau. Est-ce que c'est un hommage ou est-ce qu'elle s'approprie une culture qui n'est pas la sienne? Donc, parce que c'est une danse qui est issue à la base des communautés vraiment queer, marginalisées, racisées, donc vraiment même aussi tu vois des communautés pauvres quoi, enfin démunies. Et donc c'est intéressant, et en fait on a vu aussi par exemple avec Beyoncé, ces débats sont vraiment ressortis, notamment quand elle a osé se dire féministe à partir de 2013, quand elle a revendiqué le fait qu'elle se sentait féministe. On a beaucoup de femmes notamment, ce qui est un peu dommage je trouve, il y a eu une levée de bouclier en mode mais elle n'a pas le droit de se dire féministe, ça va pas, dont d'autres artistes, par exemple Annie Lennox de Eurythmics, ou en France ou Loudoyon qui par la suite a regretté.
Et pourquoi? Parce qu'elle était considérée comme trop jouée la sexuelle.
Ouais. Trop sexuelle pour être féministe. Parce que ça rentrait dans cette idée de, si t'es une vraie féministe, la sexualité, ça doit être un truc privé dans ton coin, tu dois pas t'en revendiquer. Sauf que dans le cas de Beyoncé, si justement on essaye d'avoir une vision un peu intersectionnelle, l'hypersexualisation de Beyoncé n'a pas la même portée que celle de Madonna, parce qu'en tant que femme noire, elle vient, contrecarrer les interdits encore plus forts que les femmes noires subissaient envers la sexualité, notamment. Enfin, ça va avec le passé aussi esclavagiste des États-Unis. Enfin, d'ailleurs, je trouve ça entre guillemets marrant que Bell Hooks ait été si opposée à Beyoncé, parce que finalement, dans ses écrits, il y a des choses qui vont plutôt dans le sens de Beyoncé, où elle expliquait que, vu que les femmes noires étaient vues comme des corps sauvages qu'il fallait dompter, il y avait cette idée de ce qu'on a appelé par la suite les politiques de respectabilité. Pour être respectée en tant que femme racisée, il faut être pudique, il faut se faire discrète. Et Beyoncé qui arrive avec ses courbes aussi, c'est très subversif en fait. Et en tant que femme noire, ça encourage les autres femmes noires à ne pas avoir honte de leur corps, à ne pas avoir peur du regard extérieur et à revendiquer cette part de sensualité que parfois Beyoncé, je trouve en plus, montre comme une forme d'arme finalement, comme une manière d'avoir le dessus dans une relation avec un homme. Ça a créé des dissensions très 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 forte, et j'étais hallucinée de me rendre compte à quel point, tu vois, ne serait-ce que je peux pas compter le nombre d'éditos qui sont sortis: Beyoncé est féministe, non elle ne l'est pas, elle a créé en tout cas une conversation sur qu'est-ce que c'est être une féministe au 21e siècle, quoi.
Et toi Domiti, dans les discussions, malheureusement on n'a pas pu écouter tous les épisodes de Sisters of Sound, mais la question de la sexualisation par exemple, elle est revenue
dans l'épisode Performer la féminité, il y a aussi une autre musicienne qui, elle, justement, elle revendique aussi, elle revendique le côté girly, c'est-à-dire les paillettes, voilà, ce côté-là, le rose, voilà. Et ça, on va lui reprocher. Donc, c'est ça qui, en fait, c'est une injonction qui est hyper paradoxale parce que elle est hyper, c'est très étroit l'endroit où, si t'es pas assez féminine, on va te le reprocher. Mais si t'es trop féminine, on va aussi te le reprocher, en fait. Ça, donc, du coup, c'est une injonction qui est quand même,
c'est une ligne de crête.
C'est une prison, en fait. Donc, en fait, il faut être féminine, mais pas trop. Il y a ce truc. Et elle le dit, pareil, un autre tremplin où elle s'est fait démonter parce que, par ce côté girly, en fait, où il y a carrément quelqu'un, je pense que c'est en off. Non, c'est en off. Mais elle l'a su. Enfin voilà, bref. Il y a eu un truc de on a dit qu'il fallait mieux qu'elle danse à poil. Enfin, des trucs vraiment hyper violents.
Bah oui, toujours plus.
qu'elle a vécu hyper mal en plus derrière.
On parle de quelle période là
On parle de, je sais pas, il y a 2 ans. Enfin,
ah ouais, d'accord.
Moi, okay. c'est des interviews récentes. Hein. Ouais. Donc non, ça c'est encore vrai. Mais juste pour répondre sur où on en est actuellement, moi je suis pas journaliste, donc je vais pas parler de où en est tout le féminin, parce que c'est pas, je sais pas, mais en tout cas de ce que j'observe moi dans mes collectifs, etc., dans les musiciennes et tout, je pense qu'on est vraiment mais toutes d'accord de dire mais on fait ce qu'on veut, quoi. Enfin, en fait, on en a marre des injonctions. Donc si t'as envie d'aller sur scène en pyjama, mais va sur scène en pyjama. Si t'as envie d'être sexy, c'est ton choix, en fait.
Oui, parce que d'ailleurs l'hypersexualisation parfois a tendance à devenir une injonction. Donc là, ce que je trouve, du coup, on retourne dans quelque chose de très restrictif, où, par exemple, dans le cas de Taylor Swift, pendant longtemps, on disait « elle est trop lisse ». Bah oui, parce qu'elle se sexualisait pas. Mais en même temps, à nouveau, ça montre toujours que peu importe ce que les artistes féminines font, ça ne va jamais. Donc c'est un peu un combat perdu d'avance. Elle a attendu ses 33 ans pour commencer un peu à se sexualiser sur scène, dans sa manière de danser et tout. Et encore, ça reste très sage, on va dire, entre guillemets. mais notamment en France pendant longtemps on l'a rejeté en se disant bah non c'est trop lisse, une pop star ça doit forcément être sulfureux, bah comme Madonna, comme Beyoncé, comme Shakira.
Mais c'est marrant qu'on on considère, parce qu'on parlait de l'hypersexualisation de Beyoncé. Moi, je suis vraiment à la masse parce que j'avais pas du tout l'impression de voir un truc sulfureux quand je vois Beyoncé avec ses tenues incroyables sur scène.
Ouais.
En maillot, une pièce là, enfin, tu vois.
Oui.
Elle dévoile quand même, quoi.
Je ouais, pense mais que... je veux dire, tu vois, c'est pas l'image que je me fais.
Enfin, non, je pense plus Beyoncé, à une Miley Cyrus, par exemple.
Oui.
Là, c'est vraiment posé la question.
Un poil sur la, sur la boule de démolition, etc. Là, tu dis, ok. Là, tu sais, tu vois le truc, tu dis...
Oui, qui mime une fellation sur un marteau, je sais plus quoi. Voilà, oui, là, on était dans l'autre chose.
Là, tu dis, ok, là, c'est très suggestif, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais Beyoncé, je voyais pas du tout le truc en mode, oh là là, elle est sulfureuse, va des rétro, tu vois.
Bah non, juste parce que après, tu vois, elle a beaucoup de clips où elle est très sexy, où elle est dans des beaux bodys, elle danse. Enfin, il y a tout un clip où elle danse au Crazy Horse devant Jay-Z, par exemple. Bah du coup, elle est en mode Crazy Horse, donc elle est quasiment à poil, quoi. Enfin, il y a des jeux de lumière. Enfin, c'est l'esthétique du Crazy Horse. Donc, ils lui ont beaucoup valu ça. Mais en fait, moi, ce que je réponds aussi souvent à ça, c'est, en fait, si vous allez au concert de ces femmes-là, la grosse majorité, c'est des femmes et des LGBT. Donc, moi, j'ai envie de dire, je vois pas trop... Enfin, c'est pas comme si ça ameutait...
Oui, c'est pas un strip club, quoi. C'est pas...
Non, ouais. Non, et puis... Enfin, et quand bien même, elle peut le faire, et pas... Enfin, ce serait pas grave, mais c'est plus, je pense, que les gens se font une idée... Où moi je vois pas de mecs hétéro pervers au premier rang de Beyoncé, alors que j'en voyais à des concerts de groupes de meufs dans le rock, par exemple. Et ça, ça me mettait très mal à l'aise. D'accord. Notamment un groupe qui s'appelait les Dumb Dumb Girls, qui avait une esthétique à la fois hipster, un peu emo, comme ça, où elles étaient très souvent, genre par exemple, body complètement transparent et des cache-tétons. Des mini shorts noirs, des collants résille, des choses comme ça. Bah les premiers rangs c'était des mecs pour le coup. Alors que, enfin, et ça pour le coup ça m'agaçait beaucoup à l'époque. Mais dans le cas des pop stars, c'est plutôt, moi je trouve qu'elles se pensent plutôt pour le regard des autres femmes. Dans le cas de Beyoncé, je pense beaucoup le regard de Jay-Z quand même. mais c'est plus des autres femmes, en fait, où on le voit aussi sur Sabrina Carpenter, qui est toujours en tournée actuellement, où elle a un rituel rigolo, c'est que tous les soirs, elle est emballée, entre guillemets, elle arrive dans une espèce de serviette de bain, et tous les soirs, elle révèle un nouveau body, donc d'une couleur différente, avec des motifs différents, et les gens sont hystériques. Mais le public, c'est des filles et des gays, quoi. Et juste parce qu'on la trouve trop belle, qu'on est en mode « Ouais, you go, girl !» Tu vois, super. Et elle sait, elle a su, je trouve, aussi, Sabrina Carpenter, je pense, en mêlant sexualité et humour, trouver une autre manière de se sexualiser qui soit vraiment, pour le coup, très, très destinée, je trouve, aux autres femmes et au public LGBT. En tant que femme hétéro.
Il y a un autre point dont on n'a pas encore parlé, parce que en fait, là, ce qu'on essaie de faire, je pense, dans cette émission, c'est de dire, parce que nous, ça nous arrive dans des commentaires, des choses comme ça, qu'il y a des mecs qui disent, mais c'est bon, maintenant, c'est l'égalité, on l'a globalement.
Généralement, ces hommes sont blancs.
Ce qui compte, c'est la musique, et globalement, c'est pareil. Bon,
oui.
Sauf qu'en fait, là, dans cette discussion, on voit que dans les vécus aussi bien des pop stars que des musiciennes comme Mitty ou des gens à qui que tu as rencontré, etc., bah, qu'on sent bien qu'il y a encore un problème entre guillemets, ou en tout cas que bah, c'est pas le même traitement que les garçons.
Mais c'est ça qui est intéressant. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, que Beyoncé a provoquer une conversation. Ma question, c'est est-ce que du coup cette conversation a eu une fin ?
Non.
Voilà. En fait, c'est.
Non, c'est toujours en cours.
Ouais,
c'est toujours en cours et c'est. Et en fait, à la fois, je trouve ça bien parfois. Parfois, je trouve aussi qu'à contrario, qu'on en attend trop aussi de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'elles nous donnent à nouveau un modèle à suivre, grand A, grand B, grand C. Et qu'en fait, ça reste des artistes, et que les artistes, c'est souvent des personnes pétries de contradictions, qui essayent un truc, et puis autre chose, et qui se renouvellent. Et que parfois, on attend de ces femmes, je trouve, qu'elles nous donnent un mode d'emploi. Elles peuvent être engagées, mais néanmoins, ce ne sont pas des personnalités politiques non plus. Et je trouve que le public a tendance à l'oublier.
Eh ben, il y a un thème qui colle vachement à ça, parce qu'il y a eu des exemples de pop stars. Alors, je sais pas si elles inspirent ensuite les autres musiciennes, mais c'est celui de la maternité. Typiquement, toi Mitty, donc t'as dédié un double épisode même à ce sujet.
Ouais, moi
je ne trahis rien si je dis que t'es concerné, je crois.
Ouais, moi j'ai des enfants. Ouais,
tu peux nous comment ce sujet t'est venu Qu'est-ce qui gravite, voilà, comme enjeu, comme défi autour de ce sujet, voilà, qu'on veut être mère en tant qu'artiste?
J'ai beaucoup de choses à dire, alors je vais essayer d'être très synthétique, mais disons que moi, quand j'ai été enceinte et que j'ai dû annoncer que j'étais enceinte à des gens avec qui je travaillais, j'avais peur, quoi. Mais vraiment peur. C'était l'angoisse. Et je savais que ça peut-être n'allait pas trop être bien pris, quoi. Et donc, et ça, c'est pareil, en fait. C'est pour ça que j'adore l'effet miroir. C'est que quand on vit quelque chose comme ça, on se rend pas compte que c'est un système, ouais, et que c'est pas normal et que voilà, et que ça nous dépasse, en fait. Donc moi, j'étais trop mal avec cette angoisse de trahir l'équipe, de enfin voilà, je me sentais, moi, je culpabilisais, quoi. Enfin,
oui, donc je les abandonne,
et donc je suis rentrée dans tout un truc pour essayer de préparer au mieux, de trouver quelqu'un qui va me remplacer, qui va machin. Enfin, je me suis mis dans des trucs de voilà, pour vraiment que tout se passe bien, et en fait, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que en fait, on m'a dit Non, tu vas quand même faire une tournée avec un enfant de 3 mois, tu te démerdes, tu finances, ouais. Et donc, bref. Ouais. Et enfin, voilà. Bon, moi, personnellement, ça a été quand même un vrai sujet, quoi. Et en fait, en parlant avec d'autres, là, j'apprends que, ah ouais, elle l'a pas dit sur les réseaux sociaux qu'elle était enceinte. Ok, elle le cache parce qu'elle se dit qu'elle va être blacklistée. L'autre, elle me raconte que, ah oui, ben elle, malheureusement, elle l'a dit. Et du coup, là, il y avait une tournée en Amérique du Sud où il y avait, je crois, fallait partir 2 semaines en tournée, et vraiment la nana collait bien au truc, et donc elle dit, mais pourquoi tu me l'as pas proposé, enfin c'est exactement, je colle et tout. Oh bah non, mais toi t'as un enfant, t'aurais pas pu partir. Donc en fait on décide à ta place, parce qu'en fait tu peux pas, enfin voilà, tu fais ce que tu veux. C'est comme la, c'est pareil que la féminité, c'est-à-dire qu'à un moment donné t'en as qui font des tournées avec des enfants, t'en as qui font des tournées qui laissent leur enfant, t'en as qui font plus de tournées. Bah ça, c'est ton problème. Oui, comment tu vas gérer le truc?
On te propose de le faire, voilà. À toi de dire comment tu veux le faire, ou si tu veux le faire.
Mais en fait, là, c'est-à-dire que en fait, tu vas dégager. Il y a vraiment ce truc de, parce qu'on parlait de pourquoi tu disparais après 30 ans. Déjà, il y a l'agisme, c'est-à-dire que tu ne colles plus aux standards. Et après, si jamais tu as des enfants, alors là, tu ne...
Comme dans plein d'autres milieux professionnels où tu te retrouves un peu placardisé parce qu'ils se disent t'es moins disponible qu'avant, ouais, parce que t'as des enfants, que c'est plutôt aux femmes qui est censée revenir la charge des enfants.
Ce qui est un peu compliqué, c'est que dans certains milieux professionnels où t'es quand même salarié, t'as un tout petit peu plus quand même de protection, parce nous on signe pas de contrat, en fait. Donc en fait, cette discrimination là elle est totalement invisible, puisque c'est pas que on va te mettre au placard et donc quelque part tu peux prouver qu'on t'a mis au placard et que avant et que machin, c'est que juste en fait on va plus proposer de boulot, en fait. C'est ça qui se passe.
Ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis il y en a une qui l'a caché sur les réseaux sociaux, en le disant comme ça, on pourrait croire qu'elle le cache à son public, alors qu'en fait, c'était pour le cacher à l'industrie.
Tu le caches à l'industrie.
Ouais, c'est fou.
Enfin, ouais, tu le caches à l'industrie. Ouais.
Tu le caches à tes pairs, en fait. Pas...
Ah ouais. Et ça, c'est quand même un sujet qui est, et en plus, hyper tabou. Enfin, on n'en parle pas beaucoup. Et alors moi, je trouve ça hyper cool qu'il y ait des pop stars qui mettent en avant ça, parce que c'est hyper important qu'on l'accepte, en fait. Enfin, d'ailleurs, Lio, elle en a parlé là, il y a pas si longtemps, de que à l'époque, sa maison
disque avait paniqué.
À l'époque, donc c'était dans les années 80-90, elle avait assumé sa grossesse et sa maison disque lui avait dit, mais t'es complètement dingue, tu vas plus avoir de public.
Parce qu'en fait, elle est apparue très enceinte à la télé et son label lui a dit, t'es complètement folle, ça va pas de faire ça.
Les gens vont, voilà. Ouais. Et en fait, ce qui est trop bien dans l'histoire, c'est que, en fait, elle raconte que dans les jours après, elle a reçu des paquets de lettres de femmes qui la remerciaient, en fait, de dire
d'être apparue très enceinte à la télé, tout simplement.
Lio, elle a essuyé énormément de plâtre.
Elle est courageuse.
Oui. Elle était très en avance et très seule.
Et justement, tu disais, pour passer la balle ensuite à Morgane, que les pop stars peuvent être des modèles, entre guillemets, justement.
Je trouve que c'est hyper important que ce soit visible, en fait. Et que ce soit, que ça existe.
Assumé.
Après, la réalité n'est pas la même. parce que je pense que quand t'es une pop star, t'as pas le même budget de.
Non, c'est sûr. Tu peux avoir 8 nounous si tu veux.
Donc, du coup, voilà, il y a ce truc de, et je trouve ça très bien aussi qu'on parle de parentalité pour dire que ça concerne aussi, évidemment. Bah, les pères, quoi. Mais, encore, la réalité n'est pas du tout la même.
J'ai l'impression que la question n'existe pas. Dans le cas des artistes hommes, genre, quand ils ont des enfants.
On leur pose très peu la question. On leur pose très peu la question.
Ouais, parce qu'en fait, eux, ils ont pas ce truc de blacklister. Parce que déjà, ils sont pas enceintes, donc il y a pas toute cette période.
Oui, ou physiquement,
on sait pas quand on va s'arrêter, quand on pourra reprendre.
Ça peut arriver à certains d'entre nous. Mais oui, ça change pas dans ces moments.
T'es en train de me dire que t'as fait une quad, ouais.
À un moment donné, ouais, tu. Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini de. Ma fille a 13 ans, mais c'est pas grave. Mais oui, effectivement, c'est. Il y a pas effectivement cette métamorphose physique et le. Ce qu'on considère comme étant une faiblesse, tu
oui,
vois,
une capacité,
c'est limite un handicap, tu vois.
Ouais. Souvent, en fait, je pense un peu un des seuls contre-exemples qui me vient, c'était Claude François, où il avait caché d'avoir un premier enfant parce qu'on lui disait.
Lui, c'était pour son public.
Oui, c'était pour son public. Ton public va pas comprendre. Et mais c'est aussi, je trouve, un truc très infantilisant envers le public. De, je veux dire, au bout d'un moment, c'est quand même très banal. Enfin, très banal. Énormément de gens ont des enfants. je pense que les fans de Claude François pouvaient continuer à hurler et fantasmer sur lui, même s'il était papa. Mais je pense que c'était aussi, tu vois, je trouve que ça rejoint un peu ces gens qui du coup te proposent pas certains trucs parce que t'es enceinte ou parce que t'es maman. Ou c'est même pas de l'auto censure des artistes, même des équipes autour. Tu vois, je trouve que c'est aussi l'industrie qui doit modifier sa manière de réfléchir
à
ça.
Ce qui est fou, c'est qu'on parle de la métamorphose physique, effectivement, mais ça, c'est une petite période. C'est-à-dire que
on va
faire reposer sur les femmes, effectivement, comme tu le disais, le fait que c'est avant tout elles qui vont s'occuper des enfants, alors que la question devrait se poser de la même manière pour les pères.
Leur vie change et leur responsabilité. C'est-à-dire que la femme qui décide de reprendre des tournées alors que son enfant a moins de 6 mois va être accusation, t'es une mauvaise mère, je t'occupe même pas de ton enfant.
Est-ce qu'on a des exemples justement un peu autour des pop stars, de quelques figures majeures, comment elles gèrent ces questions de bébé, de carrière, vis-à-vis du public aussi?
On en a plein, j'en parle pas mal dans mon livre, du coup, parce que c'est un sujet à nouveau très concernant pour les femmes, pas pour les essentialiser, mais parce que notre société continue à estimer que c'est surtout aux femmes que ça revient de s'occuper des enfants. On a par exemple le cas de Beyoncé qui, elle, a complètement réussi à intégrer sa maternité
à son
univers, à sa musique. C'est-à-dire que, par exemple, sa première grossesse, elle l'a dévoilée en direct à la télé, quoi. Donc, elle chantait au MTV VMA.
Elle a
ouvert sa veste à la fin de sa chanson. Elle s'est caressée le ventre pour faire comprendre qu'elle était enceinte. Donc, il y a aussi un côté marketing qui rentre dedans, forcément. C'est-à-dire que là, on comprend qu'elle veut nous faire rentrer aussi dans sa vie privée.
Du coup, elle nous impose même sa fille dans ses concerts.
Oui,
merci Beyoncé, mais bon, on n'a pas payé 4000 balles pour voir ta fille chanter, merci.
Sa fille danse, sa fille aînée Blue Ivy danse surtout, mais c'est vrai que elle, tu sens ce côté clan familial. En même temps, sa mère est toujours dans son ombre depuis toujours, donc je pense qu'elle reproduit ce qu'elle-même a vécu, c'est-à-dire qu'elle a envie d'avoir ses enfants auprès d'elle, même en tant qu'artiste, peut-être même à les pousser à aller vers cette voie-là, qui sait. Mais c'est vrai que par exemple, sur sa dernière tournée, on a sa fille Blue Ivy qui danse vraiment beaucoup, quoi, alors qu'elle a 13 ans, 14 ans. C'est un peu, ça peut un peu poser question aussi sur le côté un peu entre guillemets Nepo Baby.
Ah bah là.
Mais en même temps, bon.
Ce qu'on appelle les Nepo Baby, donc c'est le népotisme, c'est le fait d'avoir des parents déjà connectés.
Ouais,
ou des
qui comme ça, te permettent de, danser.
Suivre le. Enfin, de.
Et d'avoir des facilités d'entrer dans le milieu artistique. Et ça a interrogé un peu. Et en même temps, tu te dis, en même temps, ça doit être incroyable pour elle d'avoir 13, 14 ans et de se retrouver sur les plus grandes scènes du monde. Mais voilà, en tout cas, dans le cas de Beyoncé, c'est complètement rentré dans son marketing, l'intégrer à sa musique. Ou
ça
n'a
pas été un problème, quoi, entre guillemets.
Non, ça n'a pas tout été un problème. Par contre, au début, là, Racisme Ordinaire, on jugeait beaucoup les tenues qu'elle faisait porter pas tant les tenues, mais plus les cheveux de Blue Ivy, sa fille aînée, quand elle était bambine. Il y avait une pétition à un moment, parce qu'en fait, elle lui laissait une afro qui poussait un peu tranquille, quoi. Et il y a eu des polémiques sur Internet de « mais elle sait pas prendre soin de ses cheveux », ce qui...
Non, mais c'est
n'a aucun sens, parce qu'elle-même est noire, en fait. Donc, elle a les cheveux crépus. Donc, je pense qu'elle sait, elle maîtrise. Et il y avait eu, à un moment, une pétition qui circulait en ligne pour que Beyoncé peigne sa fille.
Qui se sent investi dans ce monde sur les cheveux de la fille de Beyoncé.
Non, mais le culot des gens.
Et du coup, après, je pense que ça l'a poussé aussi dans sa chanson Formation à dire, justement, j'aime l'afro de mon bébé, et de revendiquer ces caractéristiques-là aussi, qui restent subversives dans un monde très raciste.
C'est le moment aussi où Jay-Z a laissé pousser ses cheveux et les a laissés en friche pour dire en fait on est afro-américain, c'est nos cheveux, quoi. Enfin,
Même si ça doit pas être corrélé, on peut aussi se poser la question de la mise en avant des enfants, etc., de leur envie ou non à eux d'être aussi exposés, etc.
Oui, mais en fait, dans le cas de Beyoncé, ce qui est intéressant, c'est que si elle ne l'avait pas fait, tout le monde aurait dit ah oui, tu caches tout, tu vis en top secret, machin.
Non, mais de toute façon, ça n'autorise pas les gens à s'exprimer dessus. Après, par contre, on a le droit d'avoir un regard critique sur le fait que peut-être que des enfants, avant un certain âge, ils n'ont pas forcément besoin d'être exposés sur la place publique.
D'être aussi exposés, bien sûr.
Parce qu'il y a Rihanna aussi. Non, Rihanna, elle expose moins ses enfants.
Ils sont encore très petits, mais par contre, Rihanna, par exemple, elle a vraiment mis sa carrière clairement musicale entre parenthèses pour se concentrer sur le fait de fonder une famille et avec un discours limite très nataliste, quoi. Elle veut une grande famille.
Donc là, on est dans autre chose que Beyoncé.
Là, on est dans autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un petit couac que je relève dans mon bouquin. Donc, elle a sa marque aussi, Fenty Savage, qui est sa marque de lingerie, mais aussi de on va dire, cosmétique, mais aussi de pyjama. Et elle avait sorti, il y a 3 ans maintenant, je pense, un t-shirt où c'était marqué « Make more babies ». À peu près en même temps où il y a eu le renversement de l'arrêt Roe versus Wade qui permettait avant de vraiment sacraliser l'accès à l'IVG sur tout le territoire américain. Des gens ont relevé à ce moment-là, et je trouve que c'était bien de le relever, que c'était peut-être pas le moment de sortir un t-shirt comme ça.
Ouais.
C'est un peu bizarre. Voilà, je pense qu'elle a juste pas fait gaffe et que voilà, c'était sûrement prévu depuis 6 mois puisque, ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà, c'était pas clairement en réaction à ça, mais c'était en tout cas en décalage avec son époque. Et à côté, je relève aussi, par exemple, moi, ce que je trouve passionnant, c'est les pop stars qui se demandent est-ce que je veux être mère, en fait, je ne sais pas. Et par exemple, Charli XCX, dans son dernier album Brat, que tout le monde a retenu comme l'album de la fête, machin, bah, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi une chanson qui s'appelle I Think About It All The Time. Donc, j'y pense tout le temps, c'est ça qu'elle dit, où elle s'interroge sur est-ce que je veux être maman, je n'en sais rien, en fait. Et elle, et pourtant, ça reste une chanson très électro et tout. Et c'est une très belle chanson sur je commence à voir mes amis qui deviennent parents, ça m'interroge. Mais est-ce que je peux avoir cet amour-là? Est-ce que ma vie va changer? Je pense que je suis en même temps avec la bonne personne, donc est-ce qu'il faut le faire? On a la chanteuse Tovelo aussi, suédoise, qui en a parlé aussi dans un morceau. Et je trouve ça bien qu'il y ait aussi ces... Parce que d'un côté, finalement, le revers parfois de ces pop stars qui mettent beaucoup en avant la maternité, c'est que parfois elles ont tendance à la sacraliser et beaucoup l'idéaliser et pas vouloir trop raconter les côtés difficiles, l'impact que ça peut avoir sur elles. Et je trouve bien qu'un peu pour équilibrer d'une certaine manière, il y ait d'autres pop stars qui, elles, s'interrogent un peu plus, pour qui c'est pas une évidence d'avoir envie d'être maman et qui se donnent un peu cette liberté-là.
Ça, c'est quelque chose qui est... globalement au niveau sociétal, le fait par exemple que des mères disent j'ai fait des gosses, waouh, je regrette, c'est quelque chose qui était complètement impensable d'exprimer publiquement, en tout cas parce que tu dois toujours voir la maternité comme quelque chose de formidable, j'ai vécu une grossesse incroyable et puis après
l'épanouissement ultime de la femme,
et en fait là on arrive quand même à un truc où c'est plus accepté quand même d'avoir aussi des gens qui disent moi je me sens pas prêt à avoir des enfants, donc me cassez pas les couilles avec ça, et puis moi j'en ai eu, franchement c'est chiant quoi, enfin tu vois, et finalement je trouve que là-dessus on a quand même progressé, tu vois.
Oui, là-dessus on a progressé. Moi, ce que j'ai remarqué dans mes recherches, c'est que à nouveau, au niveau des pop stars féminines qui mettent en avant le fait d'être maman, souvent le discours médiatique autour, mais qu'elles-mêmes peuvent avoir, c'est que ça vient au-dessus de tout, finalement. Ouais. Donc même des femmes comme Beyoncé et Rihanna notamment, qui ont des carrières absolument incroyables, finalement tout ça paraît balayé à côté de la maternité. Et moi, à chaque fois, ça me fait un petit passement, parce que tu dis, même des filles, des femmes à ce niveau-là, qui ont eu des carrières incroyables et qui ont essuyé beaucoup de difficultés. Je crois que je cite Vogue, qui disent à propos de Rihanna, elle vit sa plus grande transformation ou son plus grand accomplissement. Et tu fais, c'est un peu relou, en fait, de présenter les choses comme ça. Et en même temps,
le présente elle-même comme ça.
Oui, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, ça montre que là-dessus, ces femmes-là, ces femmes d'influence, en tout cas, on va dire, tu vois, que vers lesquelles on se tourne pour avoir une certaine vision de la féminité, continue à idéaliser ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a que Madonna, je trouve, par exemple, où j'avais cité, où à la fois, elle aussi, elle met beaucoup en avant le fait d'être maman, et elle le relie beaucoup, elle, en tout cas, à son féminisme. Pour autant, elle a pu déjà glisser en interview, c'est pas toujours facile, quand même, j'en chie parfois avec mes gosses. Maintenant, je pense que c'est moins le cas, parce qu'ils sont plus grands. Mais je trouve ça bien, juste d'essayer de pas tomber dans l'idéalisation et la sacralisation, et de les voir comme... je trouve que ça va aussi un peu avec notre mode un peu du féminin sacré, de la sublimation du corps de la femme et du côté magie féminine.
Je crois
que
Beyoncé, elle est 100% rentrée là-dedans.
Ah oui, elle est complètement là-dedans. Ouais. Mais aussi la chanteuse Soko, par exemple, je cite un exemple où à la fois je trouve ça très bien. En fait, elle a écrit un essai pour raconter son accouchement. Et en fait, elle a eu un accouchement très hippie, quoi, très ésotérique, avec une doula, des amis qui étaient là pour l'accompagner, où elle avait des cristaux autour d'elle. Enfin, il y avait tout un truc, voilà, de très mystique, quoi, mais qui là aussi témoigne de notre époque. Mais ouais.
Est-ce que parce que Domiti quand même a témoigné de cette peur entre guillemets en tant qu'artiste, de révéler un entourage professionnel et des conséquences que ça peut avoir sur une carrière partagée par d'autres gens dont tu as recueilli les témoignages, etc. Est-ce qu'on a des exemples de pop stars qui ont souffert, leur carrière ont souffert du fait qu'elles aient des enfants?
Britney Spears, ouais, pour moi. Mais parce que plus au sens, ça l'a pas empêché de faire de la musique, mais c'est devenu un nouveau moyen de l'attaquer. Donc c'était dans les années 2000. En plus, enfin voilà, enfin de toute façon tout était très chaotique dans sa vie à ce moment-là, où elle s'est mariée assez vite à Kevin Federline, qui était à la base un de ses danseurs. Ils ont très vite eu un enfant, et c'était vraiment une époque où elle était constamment suivie partout par un essaim de paparazzi qui était mais constamment partout.
Donc elle le portait, elle ouvrait une porte de bagnole et du coup l'enfant était là, regardez, elle le porte mal.
Oui, voilà. Et en fait, elle a été attaquée comme ça plusieurs fois, de c'est une mauvaise mère, regardez, elle a fait tomber son gamin par terre, regardez, elle a pris la voiture avec son gamin sur les genoux. Et en fait, à chaque fois, elle explique très bien, non mais là, à ce moment-là, en fait, j'ai fait tomber mon enfant parce que j'ai trébuché, parce qu'en fait, il y avait tellement de paparazzi autour de moi que j'avais plus la place d'avancer. Ou la fois où je savais que je devais pas faire ça, de mettre mon enfant sur les genoux, mais en fait, j'ai eu peur, il y avait trop de mecs autour de nous, j'ai paniqué, je suis rentrée dans la voiture, j'ai mis mon gamin sur les genoux et je suis partie, quoi. Et en fait, ça a contribué à toute la, vraiment le harcèlement médiatique et public dont elle a fait preuve à l'époque. En plus, c'était aussi, je le raconte dans le bouquin, la naissance des blogs people. Par exemple, comme Perez Hilton, qui était vraiment un blog très, très, très consulté à l'époque. Donc, là, on est encore dans autre chose que les tabloïds qui peuvent sortir tous les jours. Mais là, c'est vraiment les blogs. Il faut que ce soit alimenté en permanence. Donc, encore plus de demandes et encore plus de volonté d'épier ces stars-là pour pouvoir avoir des trucs à dire, même plusieurs fois par jour sur elles. Et clairement, pour moi, dans son cas, ça a été quelque chose qui s'est retourné contre elle et qu'on a utilisé contre elle. Elle a quand même perdu la garde de ses enfants, enfin, internée de force. Et on le voit même encore aujourd'hui, d'ailleurs, Kevin Federline, qui a sorti ses mémoires, là, ou je sais pas quoi, a eu des propos hyper graves envers elle pour sous-entendre qu'elle avait été une mauvaise mère, qu'elle avait été dangereuse envers leurs enfants. Et bah derrière, elle a fait encore un communiqué pour essayer de donner sa vision des choses. Et puis, elle a encore disparu d'Instagram pour la énième fois. Donc, je pense que dans son cas, alors ce que je trouve d'autant plus terrible dans le cas de Britney, c'est que elle ne rêvait que de ça. Elle rêvait d'une vie normale. Enfin, c'est ce qu'elle disait dans les interviews. Hein. Je sais pas moi qui invente, de se marier, d'avoir des enfants. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, et on lui a retiré tout ça aussi. Mmh. Donc, moi, c'est vraiment l'exemple qui me vient en premier lieu en tête. C'est celui de Britney Spears, ouais.
Il sera peut-être le dernier point de cette émission, parce que le temps file, mine de rien. Et en fait, c'est surtout que c'est un gros morceau. Enfin, c'est un gros morceau. C'est un sujet extrêmement important qu'on a évoqué rapidement, c'est les VSS. Mm-hmm. Peut-être Domiti, sur un sujet, tu le disais, aussi grave, aussi sensible, tu disais que toi, tu faisais vraiment attention à la façon dont tu allais le traiter, les termes que tu allais utiliser, etc. Qu'est-ce que tu retiens de quand tu abordais cette question avec les gens avec qui tu as fait des entretiens, c'est des dizaines et des dizaines. Tu as rencontré chaque saison, à chaque fois, il y avait souvent de nouvelles artistes. Je sais pas, tu as rencontré au moins 40 personnes, un truc comme ça.
Plutôt 20, je pense. Un peu plus que 20.
Okay. Ouais. Tu sentais qu'il y avait un enjeu vraiment autour de ces questions de VSS, que tout le monde est touché, tout le monde en a conscience. C'est tout le temps là, entre guillemets, dans le monde de la musique.
Bah, disons qu'il y a une question de degré, de gravité, on va dire. C'est-à-dire que le côté, c'est, en fait, je sais pas à quel moment ça commence. Est-ce que les Black Salas, et trucs comme ça, voilà, ça, c'est quoi, en fait? Enfin, à partir de quel moment évidemment, ça a pas été, enfin, je sais pas comment expliquer, mais disons que, en fait, c'est un sujet qui est vachement tabou, en fait.
C'est paradoxal, parce qu'on a l'impression quand même que, en tout cas, quand on est dans le monde de la musique, qu'il y a des initiatives, qu'il y a des gens qui prennent la parole autour. Oui. Il y a eu évidemment le fameux MeToo, on en reparlera. Mais toi, tu considères qu'encore aujourd'hui, il y a du tabou?
Ah ouais, parce que donc
oui,
je
pense que quand t'es pas dans les cercles militants, la musique, je pense que ça reste tabou.
C'est pour ça que moi, déjà, c'était sûr que je mettrais pas de parole de musicienne. de sur cet épisode parce que ça se retourne trop en fait contre elle en fait. Donc c'est le fameux mythe de elle dit qu'elle s'est fait violer pour relancer sa carrière et tout ça, enfin des trucs qu'on entend hein. Et ça j'étais contente d'aller décortiquer cette question là qui est exactement l'inverse, c'est-à-dire que si tu parles de choses comme ça, c'est toi qui dégages en fait. On veut pas enfin voilà. Donc du coup j'ai fait une interview avec Jean-Michel Aubry-Journet qui est donc un des cofondateurs de Musique Tout, qui a récupéré plein de témoignages etc, qui a fait un travail d'enquête énorme, qui a confié à des journalistes et tout. Et en fait en deux mots, moi ce qui m'a fait vraiment halluciner, c'est que de tout son travail là, je me disais ah ouais. Et donc il y a eu des enquêtes qui ont été qui ont mis en cause des gens pour des faits avérés etc. Et donc moi quand il commence à me raconter tout le truc, je me dis oh mon dieu, c'est l'affaire Weinstein quoi, c'est un truc de ouf. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et en fait c'est ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé derrière?
Des procès en diffamation.
Et pas grand chose. Procès en diffamation. Lui, il est attaqué en diffamation. Et donc, lui, il a dû payer, je sais plus combien de milliers d'euros. Parce que, voilà, donc, en fait, ça se retourne contre ceux qui parlent, en fait. Donc, ça, c'est quand même ultra violent. C'est pour ça que c'est tabou. C'est que, en fait, tous ceux qui parlent, ils s'en prennent tellement derrière, ils risquent tellement que c'est quand même difficile. Pour moi, c'est facile d'en parler puisque j'en parle de manière, je fais juste un état de fait du travail de Jean-Michel Aubry-Journet, en fait. Je prends aucun risque à faire ça. Donc, c'est facile.
Tu demandais quand même, sans diffuser leur témoignage, c'est un truc que tu voulais pas faire, mais les artistes que tu as rencontrés, tu leur demandais si elles avaient été concernées par des VSS directement dans leur carrière ou non, tu te sentais
c'est
pas
plutôt non pas frontalement parce que c'est pareil, c'est
bizarre de demander
c'est compliqué comme sujet quand même.
Par contre ça vient dans la conversation,
mais ça a pu venir, ouais ça a pu venir, où on a pu me dire telle personne attention parce que machin, mais faut pas le dire.
Ça, c'est vrai que c'est un truc classique, même nous à notre petite échelle.
Faut pas le dire.
On n'est pas extrêmement intégré dans l'industrie musicale. Mais on peut entendre des trucs de tout le monde sait ça de telle personne.
Oui,
mais
bien sûr. Bon. Les gens parlent, voilà. Enfin, les femmes parlent en fait. Mais
pour se prévenir.
Pour se prévenir.
Mais tu peux pas le dire parce que si tu le dis, c'est toi après qu'on va attaquer et machin et truc. Et donc, c'est. Et donc, moi en tout cas, ce qui m'a vraiment fait halluciner dans tout ça, c'est de voir qu'il y avait une omerta et que en fait, même s'il y a des enquêtes, même si tout le monde le sait, même si machin, en fait, les mecs, ils reviennent à un autre poste, discretos, et puis hop, tout va bien pour eux, et que derrière, et ça, je le dis dans le podcast, c'est un peu... je le pense, en fait, mais je pense que t'as vraiment, honnêtement, plus de chances d'être blacklisté en étant enceinte qu'en étant un agresseur, quoi. Donc, c'est quand même...
C'est ouf.
C'est absurde. Ouais. C'est absurde.
Mais est-ce que le point sur lequel on est plutôt tous d'accord ici, c'est pour dire que le MeToo qu'il y a eu au cinéma, il y a eu une tentative dans le monde de la musique, mais ça n'a pas du tout eu la même résonance.
Non.
Voilà.
Très peu.
Est-ce que c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure entre quand tu comparais le métier d'acteur d'actrice à celui de musicien de musicienne, de dire que la musique c'est plus incarné. L'artiste est beaucoup plus lui-même, alors qu'au cinéma, il y a le rôle que tu joues versus qui tu es dans la vie privée, et qu'en général, quand on parle de Me Too cinéma, c'est ce qui s'est passé hors caméra, dans des loges, des machins, et donc dans ce cas-là, tu considères l'artiste, mais pas forcément les rôles qu'il ou elle peut jouer, et que du coup, il y a une distanciation qui se fait, c'est plus facile d'en parler, alors que sur la musique, quand tu dis tel artiste a été victime de VSS, les gens, instantanément, ça rejaillit sur... l'image publique de l'artiste et sur son art, en fait, ce que la personne peut proposer.
Oui, je trouve que c'est une très bonne remarque, que très certainement ça doit jouer, c'est sûr. Ouais. Parce que comme tu dis, comme on le disait, c'est un métier très très incarné et du coup, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de réécriture possible. Donc, je pense qu'aussi, du côté des victimes, il y a cette peur d'être vue, je pense, parfois aussi que comme une victime. Ouais. Parce que c'est. Être victime, c'est encore très mal vu dans notre société. j'ai tendance à y voir un exemple de ce qu'on appelle le post-féminisme à nouveau. C'est l'idée que on n'a plus besoin du féminisme, les combats sont gagnés. Si t'arrives des ennuis, c'est que soit c'est la faute à pas de chance, parce qu'il y a eu un déni total des VSS et de leur ampleur toujours très forte, soit bon bah prends sur toi en fait et continue. Ouais. Et en fait on sent aussi beaucoup, je trouve, ce que disent souvent les artistes féminines qui finissent par parler, c'est la peur pendant longtemps d'être ou étiqueté femme à problème. Parce qu'il y a toujours un peu ce côté, je pense, si t'arrivais quelque chose, c'est que t'as dû quand même un peu le chercher.
Ouais,
donc ça revient beaucoup. Mais c'est vrai que dans la musique, on a quand même eu des témoignages. Mais il y a eu quelques changements. J'en parle dans le livre, quand même dans des majors et tout. Mais
peut-être juste pour revenir, parce que
ça a été quand même un épiphénomène à un moment. C'est-à-dire qu'on en parle plus tellement encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a tenu quelques années et puis c'est retombé comme un soufflet, alors qu'il faudrait continuer. Il faudrait continuer à en parler, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs.
Pour replacer un tout petit peu pour ceux qui connaissent moins ces sujets, etc. Donc déjà les VSS, donc c'est les violences sexistes et sexuelles, alors qui peuvent être, ça peut prendre différentes formes, ça peut aller d'une agression au viol,
le harcèlement sexuel, etc. Ouais, chantage sexuel.
Et ce que disait Daz, à savoir que, bon, ça tu le dis dans ton livre, il y a eu quand même, MeToo a été quand même un révélateur et qui a changé un peu la société quand même. C'était pas juste un truc médiatique.
Ça a provoqué une grosse prise de parole globale des femmes à tous les niveaux des sociétés, partout.
Et est-ce que effectivement, ce que disait Daz, à savoir que on a tous l'exemple du cinéma, tu citais Harvey Weinstein, etc., Mitty tout à l'heure, qu'il y a eu un décalage, qu'il y a eu un mouvement similaire dans la musique, mais qu'il n'a pas pris la même forme et il n'a pas eu la même puissance entre guillemets que dans d'autres industries.
Oui, il n'a pas eu déjà, il a pris plus de temps à arriver. Ça, je le note par exemple dans le livre, c'est-à-dire que. Du coup, MeToo, ça a vraiment commencé en octobre 2017. Après, début 2018, bah, t'as toute la période, les Grammys, les Oscars, enfin, ça enchaîne, quoi. T'as les Grammys qui prennent, les Oscars, justement, au contraire, pardon, qui prennent ça très au sérieux, qui font monter des victimes d'Harvey Weinstein sur scène. Et les Grammys, c'est un peu genre, on se cache un peu, quoi. On n'a pas trop envie d'en parler. Et c'était le média Vice notamment, non Pitchfork pardon, qui avait fait une enquête assez intéressante que j'avais trouvée là-dessus, que je cite dans le livre, sur le fait que la musique souvent, enfin limite on va voir ça comme étant encore plus cool et destroy et rock'n'roll que le cinéma par exemple. Donc il y a ce côté un peu déjà, on est contre les normes sociétales, on est cool, on se prend pas la tête, il faut être un peu libéré, faut pas créer des histoires.
Ce qui est très drôle, c'est que être contre les normes sociétales, ça implique du coup d'être full patriarcal, ce qui est la norme sociétale,
Non mais ça de toute façon, ça c'est des choses que beaucoup de gens dans l'industrie de la musique ne veulent pas entendre. Ils sont persuadés d'être des grands rebelles alors qu'en fait pas du tout.
Complètement consensuel en fait.
Oui, exactement, c'est une très bonne remarque là aussi, ils veulent pas du tout l'entendre parce qu'ils pensent être très cool et à contre-courant alors que non. Parce qu'ils jouissent de pouvoir complètement démesuré et qu'ils n'utilisent pas à bon escient en tout cas. Et tu vois, même moi, à mon niveau, par exemple, j'en avais parlé à un groupe qui s'appelle Sleater-Kinney, qui est un groupe féminin de punk féministe, de Girl Riot, vraiment un des groupes emblématiques de cette scène, justement, qui était issue dans les années 90 autour de Seattle et tout. Et elle-même, à l'époque, m'avait dit « Non, mais je pense que dans la musique, c'est quand même un peu moins le cas que le cinéma. C'est plus horizontal, il y a moins ce côté...
hiérarchique.
Voilà, alors qu'en fait, si, c'est très hiérarchisé. T'as un manager, t'as plein de gens au-dessus de toi qui décident aussi d'une certaine manière où va ta carrière. Mais je pense qu'il y a... Enfin, moi, je parle souvent d'un déni de l'industrie musicale sur ces questions-là. Parce que, à nouveau, je pense que c'est tellement incarné que... Ça fait peur, je pense, et que
ça te laisse une trace sur la personne qui est victime.
Oui, c'est ça.
Elle la portera toujours.
Et puis d'ailleurs, c'est une question, puisque tu parles d'industrie musicale en général, c'est-à-dire qu'évidemment, il va y avoir les artistes qui peuvent être touchés par les VSS. Et là, effectivement,
même des grandes artistes.
Bien sûr.
Ouais, ouais.
Mais il y a aussi tout simplement.
Il y a Pomme, quand même, qui a pris la parole là-dessus. Ouais. Et qui a fait un super texte
dans Mediapart, il y a quelques années. Et qui d'ailleurs, là, continue à en parler aujourd'hui, parce que là, elle a quitté sa major pour monter son propre label, je crois, ou peut-être que je dis une bêtise, mais où elle a parlé du fait qu'elle voulait être complètement libre et que on lui avait, par exemple, elle parle qu'on lui avait imposé un shooting où elle était presque nue et qu'elle avait été très mal à l'aise avec ça et que maintenant elle veut plus de ces choses-là. Après, elle a aussi la possibilité de le faire aujourd'hui parce qu'elle a eu suffisamment de succès. Mais en fait, ça c'est important de le dire aussi parce que parfois j'entends dire oui, mais c'est ces femmes maintenant là au bout d'un moment elles deviennent intouchables. C'est complètement fou en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment être très naïf de penser ça, notamment un événement qui a a marqué aussi les années 2010, je le cite dans le livre, c'est ce qu'on a appelé le Celebgate qui a eu lieu en 2014, c'est-à-dire le piratage de dizaines de boîtes mail et de comptes iCloud qui ont permis de révéler des photos privées, des vidéos privées de célébrités féminines.
Le Fapping, ils avaient appelé ça.
Voilà,
ça,
exactement. Donc on avait Jennifer Lawrence, on avait Ariana Grande, on avait plein de stars féminines dont des photos intimes ont été révélées sans leur consentement sur Internet. Et à cette époque-là, on a l'autrice notamment Roxane Gay, que j'aime beaucoup citer à ce moment-là, une autrice féministe et queer, qui dit à ce moment-là, elles ont été ramenées sur Terre. C'est-à-dire, on leur a dit, c'est pas parce que vous avez beaucoup de succès qu'en fait, vous pouvez être prémunie des violences sexuelles. Ouais. Voilà, vous restez des femmes. Mmh. Et donc, bien sûr qu'il y a différents niveaux. Bien sûr que... Mais on n'est pas là non plus pour que ce soit une compétition de laquelle a été la plus maltraitée, mais néanmoins, c'est parlant, je trouve, d'à quel point la misogynie et les VSS restent extrêmement... présent et généralisé, c'est que même des femmes extrêmement célèbres peuvent être touchées d'une manière ou d'une autre. Ou Taylor Swift, par exemple, on l'ignore souvent, mais elle a été victime d'une agression sexuelle de la part d'un animateur radio avec qui elle était en train de poser pour une photo avec plein de gens autour. C'était en 2013. Il a mis la main sous sa jupe, il lui a grippé les fesses. Elle a été complètement sidérée, elle ne s'y attendait pas du tout. Il a fini par y avoir un procès parce que le mec a perdu son taf, diffamation, etc. C'est elle qui a gagné le procès pour agression sexuelle et c'était d'ailleurs quelques semaines avant l'éclatement de MeToo. Et elle avait demandé un seul dollar symbolique de dédommagement pour pas qu'on puisse la soupçonner de vouloir écraser ce mec et se faire de l'argent sur son dos, alors que bon, à ce moment-là, elle était, je sais pas, déjà multimillionnaire au centuple. Et elle avait pris la parole par voie d'avocat en disant « J'ai conscience du fait de mon privilège parce que j'ai pu me défendre, c'est très cher. Mais moi, ça a été une vraie prise de conscience parce que le procès a été très violent, parce que il y a eu du victim blaming, on a essayé de la faire passer pour une menteuse, enfin qui sont des mécaniques malheureusement très classiques pour les victimes de VSS lorsqu'elles vont jusqu'à la justice. Et en fait, elle explique que ce procès, ça a radicalement changé sa vision du monde. Et qu'elle s'est rendue compte aussi que même les hommes de son entourage et dans son entourage très proche au niveau business, ce sont des hommes qui seraient jamais capables de comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, enfin, et l'impact que ça a pu avoir sur elle. Donc on a elle, on a aussi Kesha qui a accusé son mentor et producteur Dr. Luke de harcèlement moral, sexuel, de viol. À ce moment-là, personne ne pouvait le soupçonner. Elle avait énormément de succès avec ses chansons. Elle était de toutes les cérémonies. Donc, il faut pas penser aussi que c'est parce que certaines femmes atteignent un niveau de succès que du coup, elles deviennent intouchables. Il y a toujours un risque, en fait.
Et puis, on parle des artistes, mais aussi toutes ces femmes qui travaillent dans le monde de la musique sans être directement artistes et qui, en fait, se heurtent à des problématiques similaires. Dans ton bouquin, tu donnes quelques chiffres. Je le cite. Par exemple, 30% des professionnels disent avoir été victimes au moins une fois de harcèlement sexuel dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est une enquête de la GAM et de Cura publiée en 2022. C'est plus que la moyenne française qui est de 24%. Là, on est à 30%. Donc c'est quand même plus important.
Déjà, 24%, tu dis waouh.
Ouais, bien sûr.
Une femme sur 5, en fait.
Ouais, c'est ça.
Une femme sur 4, pardon.
Et une femme sur 4, et dans le cadre de la musique, c'est une femme sur 3, quasiment 30%.
Oui,
tu vois.
C'est plus.
21% des répondantes ont été victimes d'une agression sexuelle, 21%. 2,3% de viol dans un contexte professionnel. Et près de 50% des femmes interrogées disent avoir aussi été exposées à des blagues, propos sexuels, sexistes, etc. Une femme sur deux, elle se prend des sales blagues.
Ça, c'est plus.
Ça me semble même peu.
Et dans le cas de Musique Too, on parle aussi beaucoup de viol. On parle pas que de blagues, quoi. Donc, c'est des trucs.
Bon, en tout cas, pour dire que c'est un problème généralisé qui touche plusieurs corps de métier. Et
c'est pas que les artistes.
C'est pas que les artistes, effectivement. Et je sais même pas d'ailleurs dans quelle mesure.
Les maquilleuses, coiffeuses, tous les métiers supports qui y a autour de.
Non, parce que parfois c'est l'inverse. Parfois c'est les artistes qui sont les agresseurs.
Oui, aussi.
Oui, il y a ça aussi, bien sûr.
Sur des attaques.
Et qu'on continue à programmer.
Sur des fans,
dans les festivals.
Oui, bien sûr.
Et qui continue à tourner.
Oui.
Et ça, c'est ok, quoi.
Ouais, on parle toujours de l'affaire Quanta, où il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui disent que il a tué Marie Trintignant, mais il a purgé sa peine parce qu'il a fait de la prison. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que ce gars-là n'a rien à foutre. Après, une scène, en fait.
Ça, c'est un débat. Moi, j'ai une position très claire là-dessus. J'entends par contre que tout le monde ne soit pas forcément d'accord. Moi, je considère que.
Attention.
Non,
revois mes appuis.
Non, non, ma position, elle est très simple. C'est de dire, lorsqu'il y a eu des faits trop graves, tu peux plus avoir de vie publique derrière.
Bah, ok.
Oui, je
dis pas qu'il a plus le droit de travailler, machin.
Non, il faut bien qu'il gagne sa vie.
Bien sûr, il fait ce qu'il veut, mais pas de manière publique, pas avec des fans qui peuvent l'aduler, pas une représentation publique dans une salle. Là, ça me met mal à l'aise. Après, est-ce qu'il faut l'interdire absolument? J'en sais rien. C'est pas mon domaine de compétence.
Moi, c'était.
Mais je pense que moralement, c'est problématique.
Mais normalement, en fait, le truc, c'est que.
Pour plein de faits graves, pas uniquement celui-là.
Sur ce truc-là. Mais ça devrait même venir de lui, en fait. C'est lui qui devrait se dire, je me mets en retrait parce que c'est mort. Enfin, littéralement, j'ai tué quelqu'un, tu vois.
C'est pas que les VSS.
Mais il a fait la une des Arocs en 2016.
Deux fois après être sorti de prison, ouais. Quant à lui, se voyait plus ou moins comme une victime de tout ça, de toute façon. Donc, faut pas attendre quoi que ce soit. Faut pas attendre grand-chose.
C'est ça. Ouais, non, franchement. Mais c'est fou, en fait, parce que tu te dis, il y a quand même des trucs où normalement ça devrait faire l'unanimité.
Oui,
et tu te rends compte qu'en fait,
bon sens, mais en fait
la
non.
conversation elle est pas du tout finie sur ces histoires là quoi. Donc quand il s'agit que d'une agression, ça va.
Oui, les femmes sont là. De toute façon, c'est un peu le c'est le dommage collatéral. C'est comme ça, c'est pas grave.
Et pour avoir un peu d'espoir.
La musique est plus importante.
Pour un peu d'espoir quand même.
Se jeter dans la cage d'escalier.
Il y a eu comme une forme de prise de conscience qui n'est pas suffisante. On l'a bien compris, qui est même parfois encore invisibilisée, etc. Mais il y a quand même des structures de plus en plus qui existent, j'ai l'impression.
Il y a plein d'assauts dans
des festivals, alors pas tous, il y en a qui sont à la ramasse, mais il y en a certains qui mettent en place quand même des équipes,
des équipes
à qui on peut faire appel à tout moment, etc.
Oui. Donc, des références.
Rassurez-moi, il y a quand même des choses qui...
Non, il y a des choses qui bougent, je trouve, notamment... envers le public, c'est-à-dire notamment la prise en charge du public justement dans les cadres de lieux de fête ou de festival, d'avoir sur place une association effectivement qui peut servir de référente en cas de problème, qui peut intervenir très très vite. Il y a aussi un côté formation aussi. Enfin, on a beaucoup d'associations qui donnent des formations en fait tout simplement à des professionnels de l'industrie de la musique. Je crois que j'en parlais dans le livre, le Centre national de la musique les rend obligatoires maintenant les formations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour être attentif à ça. Il me semble que c'est
pour avoir des subventions
pour avoir des subventions maintenant, alors peut-être pas toutes, je veux pas m'engager non plus, mais en tout cas pour certaines, vous êtes obligé de suivre des formations contre les VSS pour pouvoir avoir accès à certaines subventions. Et ça, c'est nouveau, c'est depuis Musique Tout notamment. Mais après, est-ce que ça change notamment, moi je trouve, dans notamment des artistes masculins qui vont être accusés de violence, comment est-ce qu'on va les traiter? Ça bouge quand même encore pas trop malheureusement, mais en tout cas c'est vrai qu'au niveau, parce qu'on n'a pas parlé du public, mais le public aussi, et je cite aussi des chiffres dans le livre sur le fait que quand t'es une jeune femme qui aime bien aller à un concert ou aller en boîte de nuit, t'as de grands risques, de grandes chances malheureusement de te faire agresser, ce qui n'est pas normal. Donc les lieux de fête restent encore quand même beaucoup des lieux de danger, mais on voit quand même en France, je trouve, qu'il y a eu un début de prise de conscience où on a certaines salles de concert qui ont mis en place, qui ont renforcé leur sécurité, qui ont essayé de se former aussi aux questions du problème par exemple du GHB, des femmes droguées à leur insu, et de faire plus attention à ça et donc de prendre leur part aussi dans la lutte contre ces pratiques-là, ces pratiques criminelles. Donc je pense notamment au niveau de la prise en charge du public que ça s'améliore, qu'il y a plus de moyens et plus d'attention et plus de formation là-dessus.
Au niveau des mentalités aussi, moi je trouve qu'il y a quand même parce que tu disais, il faut rester optimiste. Et c'est vrai, on parlait des années 90, 2000. Moi, ce que je dis d'ailleurs dans le podcast, c'est que quand j'étais petite, je voulais être soit chanteuse, comédienne. Enfin voilà, c'était ces métiers-là qui m'intéressaient. Et j'entendais tout le temps, de toute façon, c'est des métiers, il faut coucher quoi pour réussir.
Oui, oui,
c'était un truc, on te le disait,
normal,
mais
quoi.
C'était normal. Mmh. C'était, si tu n'es pas prête à ça, faut pas faire ce métier-là. Quoi. Et je trouve que il y a quand même un truc à changer sur, on dit plus ça, en tout cas moi je l'entends plus, ou alors c'est plus normal de dire ça quoi. Il y a quand même un truc où on se rend compte que
sur le chemin du truc
il pourrait sûrement y avoir un gros lourd qui va dire celle-là machin, etc. Mais en tout cas c'est moins admis clairement que ça ne l'a été, ça je pense.
Ouais ça bouge. Donc je trouve qu'il faut, c'est bien aussi d'avoir une perspective un peu de recul et d'espoir et de se dire que ça va continuer dans cette dynamique quoi.
On voit en plus notamment avec les procès récents, c'est les Américains donc ils font ça à échelle industrielle, mais tu vois ce qui se passe avec P. Diddy par exemple, ce qui s'était passé avec R. Kelly aussi. aussi, c'était des gens qui étaient considérés comme indéboulonnables. Je crois que P. Diddy, il était littéralement, il faisait flipper même les acteurs de l'industrie. Et pourtant, ce mec-là a réussi à tomber, alors qu'il doit avoir des dossiers sur un nombre incalculable de personnalités au sein de la musique, mais même en dehors, dans la politique, etc. Et il est tombé. Donc tu te dis, bah, il y a quand même quelque chose qui se met en place pour justement... mais voilà, pour qu'un P. Diddy tombe, il faut qu'il fasse ça à échelle industrielle, quoi, tu vois. Donc, il y a encore beaucoup à faire, c'est clair. Et après, en fait, le vrai problème de tout ça, ça reste le patriarcat. Et notamment ce qui...
Oui, parce que l'industrie de la musique, bien sûr, reflète notre société. Donc,
C'est l'industrie, hein. Donc, en fait,
et c'est une industrie.
Voilà, ce dont on parle dans l'industrie de la musique, c'est ce qui se passe aussi dans les boîtes de conseil et dans la métallurgie.
Dès qu'il y a des enjeux de pouvoir, des dominants, des oppressés, etc., bah, effectivement, il y a un rapport de force qui se joue et des gens en abusent, ça c'est clair. Et dans la musique, on le voit.
Mais c'est vrai que dans la musique, où à nouveau, il y a ce déni, je trouve, justement, du rapport de force.
Voilà. Alors qu'il existe, bien sûr. Peut-être pour... on a 5 minutes. Alors, il va falloir qu'on fasse les recos. Mais juste avant qu'on fasse les recommandations, citer quelques associations, structures qui œuvrent dans le bon sens, peut-être pour leur faire un petit coucou, puis ça donne envie à des gens de s'intéresser. Moi, je pense à MEWEM, par exemple.
Programme de mentorat pour femmes.
Absolument, pour accompagner des femmes qui veulent se professionnaliser dans les métiers de la musique. Est-ce que vous avez quelques assos
J'aimerais bien recommander les Matermitantes, qui est une asso de plusieurs nanas, et elles sont pas beaucoup bénévoles, qui aident les femmes, parce que bon, on en a pas parlé, mais quand on est en congé maternité, c'est un enfer. Et c'est très difficile d'avoir un congé. Enfin bref, c'est compliqué, la CPAM, ils comprennent pas, donc c'est un peu la croix et la bannière. Et elles font un travail de ouf pour aider les toutes les femmes. Et voilà, vraiment c'est top. Les Matermitantes.
Les Matermitantes. Puis alors là, bien sûr, j'ai plus leur nom, mais je voulais citer une association que je cite dans le bouquin, qui notamment fait beaucoup de prévention dans les lieux de fête. C'était pas Save Her, mais quelque chose comme ça, je crois.
Save Her, ça existe,
Ouais, je pense que j'avais elle en tête, à mon avis. Mais enfin, j'en cite pas mal dans le livre. Et il faut espérer que ces mouvements-là continuent, en fait, qu'ils s'essoufflent pas, parce que, par exemple, on avait pu voir au moment de Music 2, beaucoup de comptes Instagram émerger de « balance ton producteur, balance ton machin ». Qui tous petit à petit ont fini par arrêter d'exister parce que je pense menacés de poursuites, etc. Mais en tout cas, tant qu'on a déjà aussi ces associations qui sont vraiment sur le terrain, ou le travail de nous toutes aussi a développé notamment sa présence sur les festivals, c'est important aussi. En fait, vous pouvez aussi tout simplement aller les voir pour leur poser des questions de manière générale. Elles sont là aussi pour vous répondre. C'est important, cette présence-là.
Il y a même un annuaire qui s'appelle Majeur, sur lequel les femmes, les minorités de genre, etc., peuvent s'inscrire, justement pour créer un réseau d'entraide.
Et puis il y a Audience aussi, qui est la mutuelle des intermittents, et qui a carrément un numéro vert qu'on peut appeler si on a été victime d'agression sexuelle dans la musique, quoi.
Il y a des initiatives.
Oui, il y en a. Puis, de toute façon, on en mettra certainement à nouveau en avant dans cette émission d'Az. On reparlera de ces sujets, peut-être avec d'autres angles, etc. Mais il y a plein de choses.
J'ai quand même envie de me dire, même si je suis un gros doomer de ouf, tu vois, je me dis quand même, quand je vois moi le chemin que j'ai parcouru, même en tant que mec, tu vois, depuis le début des années 2000,
t'as évolué
aujourd'hui. Ouais, il y a des
trucs. Amélioré.
Il y a des trucs, je me dis, franchement, c'était chaud. J'avais écouté des morceaux avec ma copine tout à l'heure avant de venir, de genre, tu sais, des Karine, Dev Bond, les trucs de rap des années 90, là, où j'étais en mode, franchement, ils disaient des trucs de ouf, en fait, tu vois. Donc je me dis, à l'échelle d'une même génération, déjà, t'es capable d'avoir assez de recul pour dire, waouh, on a quand même, on chemine. Donc je me dis, les générations futures, normalement, partent avec les outils. Après, on sait que le progrès n'est pas linéaire, donc...
Écoute, on pensait mettre fin au racisme d'Az à une époque, en disant, les jeunes sont plus ouverts que... Maintenant, il va se barder là.
C'est vrai. Bon, on est foutu.
Les recommandations. Est-ce que vous avez une idée? On s'écoute très rapidement un petit extrait. Il faut vraiment qu'on... Parce que Mithy, elle a son train.
On est encore dans les temps.
Dans les temps. Mais Mithy, justement, est-ce que tu as, toi, un morceau que tu as envie de faire découvrir à nos
auditeurs? Il y a un morceau que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'adore, de Félix Roche, qui est allemand et qui s'appelle Driven, le morceau.
Ok. Et alors, attends, je sais le trouver ça.
Je pense
Félix
que c'est
Roche,
R-O-S-C-H.
Exactement, avec un petit umlaut, un petit tréma.
C'est en allemand.
Umlaut, Thomas.
Umlaut, c'est ça.
Mais oui, bien sûr, on connaît.
Allez, on s'écoute ça, Driven. c'est hyper bien ça. Ça a l'air très cool. Ça me donne envie d'en écouter plus de ce Félix Rocha. Ouais. Ça peut me faire penser à des trucs, ouais, un peu piano préparé et tout, tu vois, ou même des trucs un peu plus IDM, genre Kiasmo, ces trucs comme ça et tout. Bref.
Voilà. C'est bien quand tu balances des rêves comme ça.
Ouais, en plus c'est pas exactement ça, mais ça m'évoque ce genre de choses. Bref, Morgane.
Moi en ce moment j'écoute beaucoup une chanteuse britannique qui s'appelle Olivia Dean,
okay.
D-E-A-N, qui est en train d'exploser, notamment sur TikTok, là, elle a des sons qui tournent beaucoup, qui vient de sortir un nouvel album, son deuxième, qui s'appelle The Art of Loving. Elle a une très belle voix, c'est un peu un mélange de pop et de soul, et okay. Notamment il y a un morceau que j'aime bien, qui s'appelle Baby Steps.
Très bon jeu d'ailleurs sur PlayStation.
D'accord. Très bien, vous connaissez pas.
Non plus.
Qui a un joli morceau sur l'idée de un peu faire jour après jour et de tenir le cap.
Pas, je crois qu'on, pas à pas.
On en a tous besoin en ce moment. Je crois.
Allez, Olivia Dean, Baby Steps.
Plug me straight back in. Now there's no one to text when the plane lands, or to call when it's taking off. Right now, baby steps, I'll be my other safe hands. It's not the end, it's the making of. Right now, for now I'm taking but baby steps.
C'est doux ça aussi.
Ouais, c'est très doux.
Daz, ta reco.
Yes. Maroco, un groupe. Alors moi je suis un mec à l'ancienne. Maroco, c'est un groupe de rock des années 60-70 qui s'appelle Blood, Sweat and Tears. Et le morceau, évidemment, c'est du matériel à sampler 3000. Ah. Le morceau s'appelle, je sais plus comment, très chouette. Il s'appelle Sometimes in Winter.
Eh ben, écoute.
C'est du rock avec... des cuivres et tout, les mecs ils ont dit on met tout dedans, c'est très chouette.
Mais bon, ça coûte ça.
Allez.
Sometimes in winter I gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your room. Sometimes in winter, forgotten memories remember you behind the trees with leaves that cry. The window once awaited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun.
Tu prends ça, tu le mets dans la MPC, tu mets West Side Gun dessus.
Je vois le côté vinassant.
Ah, oui. Oui, c'est fou ça, c'est fou.
Et eh ben écoute, je termine.
Allez.
Avec une reco. Alors un groupe, je le découvre avec du retard parce que l'album est sorti il y a 2 ans.
Oh.
C'est un album d'un groupe qui s'appelle ESP, je sais pas comment faut le dire. L'album s'appelle Promise et en fait je le découvre parce qu'ils ont sorti une version deluxe avec quelques morceaux supplémentaires là en septembre dernier. Et en fait je me suis pris une claque, j'étais passé à côté, c'est devenu limite un de mes albums préférés de ces dernières années.
Ah, c'est fou,
je le trouve génial. C'est de la musique, je sais pas, c'est de la musique électronique un peu ambiante, mais avec des petits trucs un peu trance aussi, enfin c'est très étonnant. D'ailleurs François connaissait déjà, évidemment.
Évidemment.
Et je crois que c'est l'un des groupes qu'il a le plus écouté dans l'année, si je dis pas de bêtises. Il m'a dit ah ouais, il est dans mon top d'écoute. Machin. Donc il va apprécier ça, et en vrai c'est vraiment très bien, je vous invite à écouter Promise de ESP, et on écoute bah, le morceau qui s'appelle également Promise.
Thank you.
Je vous passe. Après, il y a des évolutions bruitistes, etc. Et l'album est hyper varié. Là, je vous ai pris vraiment le petit sucre, tu vois, le truc hyper mélodique.
Ça me donne envie d'acheter des cocktails beaucoup trop chers dans des bars branchés. C'est fou, ça.
Et voilà, donc je vous invite à écouter cet album. Je vous invite aussi à écouter le podcast de Mithy, Sisters of Sound, à lire les livres de Morgane Giuliani.
Autrice prolifique.
Absolument. Je vous invite à écouter tous les épisodes de ce podcast aussi, de notre podcast.
Eh oui, bien sûr, n'hésitez pas, il y en a 103. Hein,
exactement.
Donc, il faut y aller maintenant.
Et puis surtout, merci Daz.
Merci Salman, merci.
Merci La Bouclette.
Merci La Bouclette. Merci Thoman.
Absolument. Bon, Mithy, t'as déjà acheté chez Thoman, on le sait.
Ouais.
Évidemment. Morgane,
Non, parce que je suis pas musicienne, mais mon mec, oui. Mais oui, Thoman, bien sûr.
Eh ben, écoute, comme quoi, tout le monde connaît Thoman, Daz.
Est-ce qu'on sait qu'on sort l'épisode?
Oui, il sort dans 15 jours, un peu moins de 15 jours.
Si jamais des gens qui écoutent ce podcast ont des places pour Kendressa à la Boule Noire le 29, s'il vous plaît, il n'y a plus de place. J'ai oublié, je m'y suis pris trop tard. Je pensais qu'il y aurait des places. Il n'y en a plus. J'aimerais beaucoup voir cette artiste. Donc, s'il vous plaît.
Écoute, le message est passé. Voilà.
Et un merci. N'y allez aussi. Pas et donnez-moi les places. Je vous les achète.
Et un merci aussi à François, évidemment, pour le montage.
Bien sûr, François.
Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Nouveau sujet, nouvel épisode, de nouveaux invités.
Évidemment.
Ça sera forcément bien.
Ah, on espère.